Merci, frère Carlson. Et bonjour à vous tous, frères et sœurs dans le Seigneur. C'est parfois, je suis un peu réticent à m'avancer quand j'écoute des témoignages si merveilleux et tout, comme je l'ai fait ce matin. Et puis, un concitoyen dans la souffrance et la persécution, comme ce que notre frère et notre sœur baptiste ont traversé, comme je suis moi-même un ancien baptiste, un baptiste missionnaire, et je sais ce que c'est quand les vôtres, la même chose m'est arrivée. Ceux avec qui j'étais m'ont rejeté. Ils avaient l'idée de me renvoyer parce que j'étais devenu fou. Et j'ai découvert, comme j'avais l'habitude de le dire d'une manière un peu détournée, si je suis fou, laissez-moi tranquille, parce que je suis plus heureux comme ça que quand j'avais toute ma tête. Oui, monsieur, merci. Laissez-moi. Alors, c'est un genre de petite philosophie que j'ai, à moi. Et depuis le temps que je suis comme ça, je me sens vraiment bien. Et le petit frère de l'Église de Christ, ici, comme on a l'habitude de l'appeler, ou Campbellite, et je me souviens qu'il frappait vraiment fort contre les réunions au début, quand on a commencé. Mais vous savez, on en a eu un qui s'appelait Paul, qui était pareil autrefois, et qui est devenu l'un des nôtres. Donc, je pense que ce qu'il cherche à voir d'habitude, c'est la vie que vous vivez. Vous savez, il vaut toujours mieux me vivre une prédication que de me la prêcher. Il y a quelque temps, un grand prédicateur, un brave homme du plein évangile, je suppose que vous le connaissez tous, c'est le pasteur Booth Cleburne. Il prêche l'évangile en 7 langues différentes. Il est vraiment intelligent. C'est un géant cérébral. Et une fois, on voyageait ensemble, et lui, et frère Moore et moi, et on discutait de quelque chose. Et mon idée était contraire à la sienne. Et il a tourné les yeux vers moi. Il a dit, « Vous ne connaissez vraiment pas votre Bible. Vous savez comment mon frère Booth peut le dire. » J'ai dit, « C'est vrai, frère Booth, mais je connais vraiment bien l'auteur. Alors je veux... » Vous savez, ce n'est pas de connaître sa parole qui est la vie, mais le connaître lui, c'est la vie. C'est vrai, voyez, que je connais sa parole ou pas, si seulement je le connais lui. Et c'est certainement la vérité. Ce matin, je serrai la main au brave frère prédicateur de cette association, ici. Et là-bas, assis, il y avait ce... Je ne veux pas mettre qui que ce soit en avant, mais cet homme de couleur est entré, ce frère. Et il s'est assis là. J'ai dit à mon secrétaire ici, voilà un vrai chrétien. Il me rappelle tellement l'ancien Smith, qui était de l'Église de Dieu en Christ, je crois. Je prêchais tellement souvent chez eux là-bas, et je le revois encore. Il ressemblait un peu au frère ici, sauf qu'il avait un genre de moustache grise. J'entrais par la porte arrière, et je n'ai jamais oublié l'expression que ce vieillard utilisait, en levant les yeux. Et tous les saints étaient en train de chanter, vous savez. Il y avait une jeune fille qui habitait au coin. Mon chant préféré, c'était « Élève-le ». Et ils tapaient tous des mains à la manière pentecôtiste, vous savez. « Élève-le ». Ils m'aimaient et je les aimais. Et quand on entrait, d'habitude, il était assis là, la tête appuyée comme ça sur la table. Et il les regardait, vous savez. Il disait « Entrez ancien, laissez reposer votre chapeau. Laissez reposer votre chapeau. » Le frère, ici. Et j'ai appris alors qu'une de mes chanteuses de musique chrétienne préférée, c'est son épouse. Et j'ai fait toutes les allusions possibles pour qu'elle chante. Et là, elle a demandé qu'on ne la fasse pas venir. Et je sais ce que ça veut dire, ça. Mais je vais l'inviter personnellement, si elle peut, à venir chanter chez nous. Mais vous êtes bien la sœur qui a chanté ça, ohé du navire, un matin aux hommes d'affaires chrétiens, n'est-ce pas? J'espère que mon épouse viendra cette semaine, et je veux qu'elle vous entende, parce que je vous ai tellement vanté. Et si vous manquez ça, sur la bande, on va régler ça. J'aime ces beaux chants. Et je disais aux gens, je n'ai jamais su chanter. Oh, j'étais à des millions de kilomètres de là. Mais je disais, si jamais vous arrivez au ciel, que vous vivez dans votre grand palais, vous savez, là-haut, je disais, tout en bas, au pied de la colline, au fond du bois là-bas, il y a une petite cabane là. Ce sera la mienne. Et un de ces matins, quand vous sortirez sur la véranda et que vous entendrez quelqu'un qui est là, en train de chanter, grâce étonnante, qu'il est doux le son qui a sauvé un misérable comme moi. Vous direz, gloire à Dieu, le brave frère Branham y est enfin arrivé. Ce sera moi là-bas à écouter. en train d'essayer de chanter. À mes frères chrétiens et à... Je crois qu'un frère nous l'a présenté ce matin comme un ministre du culte de Bouddha ici. Bonjour à vous, mon cher ami. Et j'ai eu beaucoup d'échanges, pas trop, mais avec les bouddhistes, et en particulier au Canada, parmi les Chinois. Et je les ai trouvés vraiment chaleureux et gentils. Je me souviens qu'un petit bouddhiste du temple du Bouddha était venu à la réunion de Winnipeg, et il était aveugle. Ce sont des gens si petits, vraiment gentils, et ils croyaient assurément que Dieu était le guérisseur. Et pendant qu'on priait pour lui, et il répétait sans arrêt combien il aimait Dieu. Et tout d'un coup, ses yeux se sont ouverts. Et ça a été une chose tellement merveilleuse. Alors nous apprécions tous les hommes et toutes les personnes. Maintenant, je n'ai pas eu cette occasion auparavant à Chicago d'essayer de parler, et je n'essaierai pas d'apporter un message en particulier, parce qu'il y a ici des prédicateurs bien plus capables que moi d'apporter un message. Mais, et après tout, vous n'êtes pas ici pour entendre un message. Mais j'ai pensé que ça pourrait être un moment très glorieux qui me permette de rencontrer les prédicateurs de Chicago, de cette région ici, et de mieux les connaître, et qu'on puisse mieux se connaître. Et je remercie vraiment le Seigneur pour cette occasion. En effet, je suis souvent venu ici, dans cette ville, soutenu par une seule église et soutenu par les hommes d'affaires chrétiens, donc sans la possibilité de m'exprimer à l'association de frères. Et puis, j'ai pensé, il y a tellement de choses qui suivent un ministère comme celui-ci, les tenants et les aboutissants, et des hauts et des bas, que parfois, c'est facile pour quelqu'un de s'en faire une mauvaise impression. Et je veux prendre les quelques minutes qui vont suivre pour essayer d'expliquer et de rendre ça clair pour mes frères, aussi clair que je peux le rendre. Et je ne suis pas à la hauteur, et je suis incapable de faire un discours qui puisse peut-être avoir du sens pour des hommes qui sont instruits. Je n'ai pas d'instruction, et j'en manque, mais j'aime le Seigneur. Et le Seigneur m'a donné peut-être une autre manière de gagner des âmes, par un don divin, pour combler la lacune de ce que mes parents n'ont pas pu me donner une instruction. Je viens d'un foyer de famille pauvre, avec 10 enfants et un père malade. Je n'ai pas eu la possibilité de faire des études. Ainsi, mais à ma naissance, il est arrivé quelque chose, une expérience avec Dieu, pour ma mère et mon père. Et vous avez lu mon histoire. Et c'est avec cela que j'essaie d'apporter ma contribution, avec vous les frères, pour attirer des pécheurs à Christ. Et maintenant, je ne suis pas superstitieux, mais j'aime toujours, avant d'ouvrir la parole, parler un peu à l'auteur. Alors, pourrions-nous juste courber la tête de nouveau un instant? Notre précieux Père, tu es notre Dieu. Et nous nous approchons de toi au nom de l'Évangile. Je suis ici devant tes enfants, tes pasteurs, et des frères qui ont reçu une foi du même prix que la mienne. Et combien ça remplit mon cœur d'enthousiasme d'entendre ces hommes qui ont été mal compris et envoyés dans des hôpitaux psychiatriques pour la cause du royaume de Dieu. De voir comme tu appelles tes enfants dans les derniers jours. Et nous croyons réellement, Père, que nous vivons à la fin de la course. Comme le prophète l'a dit, la lumière paraîtra au temps du soir. Et nous croyons aujourd'hui que nous sommes les porteurs de cette grande lumière de l'Évangile, que par ta grâce, tu nous as permis d'apporter jusqu'aux confins de la terre, où ce réveil est parvenu. Et je te prie, Père, de me permettre d'exprimer le fond de mon cœur à mes frères ce matin, le motif et l'objectif de ma vie pour toi, pour qu'ils comprennent. Accorde-le afin que nous puissions avoir une communion, une collaboration et un amour parfait dans toute l'œuvre de l'Évangile. Car nous le demandons au nom de Jésus, qui a prié pour que nous soyons un, comme lui et son Père étaient un. En croyant ceci, qu'à ceci tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Amen. Maintenant, juste, et j'espère et je veux croire que je ne vous ennuie pas, frères et sœurs, avec ceci, mais je pense, j'aimerais être clair pour que vous n'ayez pas à écouter ce que quelqu'un d'autre a dit. Et j'ai expliqué bien des fois dans d'autres réunions de prédicateurs, mais c'est la première fois pour moi à ce groupe de Chicago. Et j'aimerais me faire connaître vraiment bien sur ce que j'essaye de faire. Dans le vieil évangile béni, ici au chapitre 26 du livre des Actes, nous lisons « En conséquence, roi Agrippa, je n'ai point résisté à la vision céleste. » Ici, bien sûr, c'est Paul qui parle. Et nous tous, en tant que prédicateurs, nous aimons nous référer à lui, parce qu'il, nous croyons d'un même accord, qu'il était l'apôtre pour l'Église des nations, que Dieu l'a appelé à être un témoin pour ceux des nations. Et son ministère avait été mis en question. Et d'habitude, quand quelque chose d'inhabituel se déclare, c'est mis en question. Et je pense que c'est tout à fait juste, ça doit être mis en question. Et je pense que parfois les pasteurs se méfient des choses qu'ils entendent. Et je pense qu'ils sont en droit de le faire. En effet, si je comprends la traduction du mot « pasteur », ça veut dire « un berger ». Et par conséquent, il est un homme qui nourrit ou qui conduit un groupe d'hommes et de femmes que le Saint-Esprit a confié à sa surveillance. Et il a le droit de savoir quelle sorte de nourriture ses brebis reçoivent et d'où elle vient. Je pense qu'il y a droit. Et si un pasteur ou quelquefois des gens avaient l'air d'être quelque peu méfiants, jamais ça ne devrait déranger personne. Ça devrait seulement créer du respect dans le cœur d'un homme, pour un homme qui tient cette position, qui mettrait ça en question. Et après tout, si vous n'êtes pas certain d'être aligné comme il faut, comment pourrez-vous jamais marcher par la foi? Si vous vous mettez en tête, maintenant ceci a l'air d'être de la psychologie. D'ailleurs, c'en est probablement, et c'en est, mais ça ne fait rien. Mais si vous pensiez réellement, dans votre cœur, que vous n'alliez jamais vous relever de la table, probablement que vous ne le feriez pas. Voyez, vous devez, c'est aussi simple que ça. Vous devez croire, vous devez avoir la foi, vous devez avoir confiance. Et comment pourriez-vous avoir confiance en quelque chose quand vous ne savez même pas où vous allez? Comment est-ce que je pourrais m'en aller sur une route où je n'ai jamais été avant, en conduisant à une vitesse folle et avec plein de virages, sans savoir ce que cache le prochain virage? Vous devez voir où vous allez, sinon vous ne savez pas comment marcher. Et c'est comme ça que tout le monde devrait être. Et à ce moment-là, quand vous pouvez, que vous le voyez, que ça vous est révélé et que vous savez où vous allez, alors rien ne vous arrêtera. Et c'est ça, je pense, Paul, ce qu'il essayait de faire comprendre à Agrippa ici. Là, il leur disait qu'autrefois, j'étais l'un des vôtres. Et je pense peut-être, si ce frère Baptiste, et s'il pouvait aller à l'église Baptiste ce matin, lui et son épouse, ce serait peut-être leur témoignage. J'étais autrefois l'un des vôtres, ou celui de l'église de Christ, ou le frère Campbellite, ici, s'il allait vers les siens. Je crois qu'il porte un meilleur nom, les disciples de Christ, c'est ce qu'ils se nomment. Mais en fait, ils sont pour la doctrine d'Alexandre Campbell. Et puis, l'église de Christ s'est retirée de vous à cause de la musique. C'est vrai, n'est-ce pas? Et s'il pouvait retourner vers eux, il dirait « J'étais autrefois l'un des vôtres ». Et Paul va voir le roi Agrippa là-bas, et Festus, il disait « J'étais autrefois l'un des vôtres ». J'étais le pharisien des pharisiens. Il avait été l'élève de Gamaliel, le grand docteur. Il connaissait toutes leurs règles et règlements, exactement ce qu'il croyait et ce qu'il ne croyait pas. Et il a dit, « J'ai même persécuté l'Église de Dieu à mort. » Voyez, il a dit, « La chose même pour laquelle je suis mis en question, je la persécutais. » Et j'ai toujours pensé que la mort d'Étienne a dû donner un coup à Paul, à cause de ce regard glorieux qu'il a vu sur le visage d'Étienne. Quand il a levé les yeux, alors que les pierres le frappaient à mort, et qu'il a dit, « Je vois Jésus debout à la droite de Dieu. » Et vous savez, vous pouvez tuer un messager, mais vous ne pouvez jamais tuer son message. Et le message, bien qu'Étienne était parti rejoindre Jésus, son message a quand même survécu. Parce que Paul n'arrêtait pas de parler de ça, et de ce qu'il était le moindre d'entre eux, et qu'il n'était pas digne d'être compté parmi eux, parce qu'il avait été témoin et qu'il avait donné son approbation pour qu'on supprime cette personne sainte. Et donc, Paul, comme tous les hommes, devant les hommes, devrait faire, Paul ramène son expérience au début à ce qu'il était, et puis il la place et la fonde sur l'Écriture pour montrer que ce qu'il faisait était conforme à l'Écriture. Bien que c'était contraire à leur croyance, il leur montrait que c'était quand même l'Écriture. Donc, je pense que nous, peu importe ce que c'est, comme je l'ai souvent dit, frères, vous qui avez été dans les réunions, si jamais il m'arrivait à moi de dire des choses qui ne sont pas conformes à l'Écriture, alors je pense qu'il est vrai que, ou à tout autre frère, on devrait venir l'un à l'autre et dire, ça ne se trouve pas dans la Bible. Vous voyez, si c'est dans la Bible, il se peut que vous en ayez une interprétation différente, mais si c'est dans l'Écriture, alors d'accord. Là, Paul donnait son interprétation de ce que le prophète avait annoncé et de ce que Moïse avait annoncé qui s'accomplissait. Et il a rencontré Jésus sur le chemin, dans une vision. Et ce Jésus l'a appelé. Et ça n'aurait pas dû être quelque chose de difficile pour ces Juifs, comme il disait, « Très excellent Festus », et ainsi de suite, que ça vous semble-t-il étrange que Dieu ressuscite les morts? Voyez, en effet, si vous savez ce que Dieu était à l'époque, par les Écritures, certainement vous devriez savoir qu'il est capable de ressusciter les morts. Et puis, il a dit, il leur avait rapporté l'expérience qu'il avait eue sur le chemin de Damas, de ce qui était arrivé, tout ça, pour leur faire savoir que ce Jésus, au sujet duquel il prêchait, ce qui causait tant d'émoi parmi eux, était le Dieu même qu'ils avaient toujours servi. En effet, il était dans le désert avec eux, celui qui les conduisait, puisqu'il était cette lumière, le feu, la colonne de feu qui les conduisait. Et il est apparu à Paul dans la même chose, de nouveau la lumière qui l'a aveuglé. Et il a demandé, « Qui es-tu, Seigneur ?» Et il a dit, « Je suis Jésus que tu persécutes. » Et il serait dur de regimber contre les aiguillons. Et il essayait de leur expliquer ce qu'il en était. Et il essayait de leur enseigner que ce qu'il a porté aux gens, c'était que Jésus-Christ était le Messie, et qu'il était mort, et que Dieu l'avait ressuscité, et que c'était conforme aux Écritures. Et qu'il était maintenant monté en haut vers Dieu le Père, et qu'il était un témoin de sa résurrection, et que ses miracles et ses signes et ses prodiges, qui étaient étranges pour les gens, ce n'était pas du tout quelque chose de nouveau pour un vrai croyant de l'Écriture, parce que la Bible en avait parlé. Regardez, à l'époque des prophètes, comment il était prophétisé, ce que, à la venue du Messie, et ce qu'il ferait, le boiteux sautera comme un cerf, dans Ésaïe 35, et plusieurs passages de l'Écriture auxquels il aurait pu se référer. Nous ne l'avons pas par écrit ici, mais peut-être que de reprendre ça et s'y référer dans son bref discours devant les rois, en effet, il n'aurait probablement pas été aussi patient avec lui que vous l'êtes avec moi. Alors, et puis il expliquait cela, et il essayait de leur dire que le Dieu même qu'il servait. Et puis, de nouveau, il a dit, selon la voie qu'ils appellent secte, c'est-à-dire folie, vous voyez, la voie qu'ils appellent une secte, voilà comment j'adore le Dieu que vous adorez, vous voyez, selon la voie qu'ils appellent secte. Je suis certain qu'aujourd'hui, si nous nous présentions devant les anciennes églises auxquelles nous appartenions, comme les presbytériens, les catholiques, les baptistes et plusieurs autres, nous pourrions donner le même témoignage à ces gens qui disent qu'ils veulent, par exemple, mettre le frère dans un pavillon pour psychopathe ou quelque chose comme ça, selon la voie qu'ils appellent une secte. Voilà comment j'adore le Dieu de nos pères. Et quel témoignage grandiose! C'était devant Agrippa, au point que même en plein milieu de son discours, Agrippa s'est écrié en disant « Paul, Saul, tu vas bientôt me persuader de devenir chrétien. » Vous voyez comme il a porté les Écritures si clairement. Pourtant, c'était contraire à sa propre synagogue. Mais les Écritures étaient si parfaitement claires qu'il a dit « Tu vas bientôt me persuader de devenir comme tu es. » Paul a dit « Je souhaiterais que tu le sois, tout à fait. Seulement, je ne voudrais pas que tu sois enchaîné comme je le suis, tu vois, mais qu'il soit un croyant comme lui. » Autrement dit, si je plais à Dieu, que tu vois la révélation comme je la vois, autrement dit, je souhaiterais que tu puisses le faire, voyez, je souhaiterais vraiment que tu le fasses. Quand Festus, je crois, lui avait dit qu'il avait trop étudié, qu'il était dérangé de la tête, mais il lui a fait savoir qu'il ne l'était pas, qu'il savait où il en était. Et je dirais ceci ce matin, frère, je souhaiterais tout à fait pouvoir, pas en comparaison de la vie de Paul, mais juste pour faire un petit exposé de base. En effet, il y en a bien d'autres ici qui vont peut-être parler ce matin, mais je voulais cette occasion de dire ceci. Maintenant, j'aimerais que chacune des églises, comme je vous ai entendu les énumérer, le Temple Bethel, l'Indépendante, les Assemblées de Dieu et plusieurs autres, je souhaiterais tout à fait que vous puissiez voir ce que je vois. Je souhaiterais que vous puissiez voir la vision que je vois. Alors, vous auriez une compréhension plus claire pour ce qui est du ministère. Quand j'ai quitté l'Église baptiste pour gagner la Pentecôte, et le docteur Roy E. Davis, qui m'avait ordonné dans l'Église baptiste missionnaire, m'a dit que j'avais eu un cauchemar. Quand la vision du Seigneur était venue et m'avait parlé, et vous savez où la guérison en était à l'époque, c'était au plus bas. Et je ne savais rien des pentecôtistes. J'avais entendu qu'ils étaient une bande d'exaltés, qui se couchaient par terre et qui bavaient comme des chiens enragés, et qu'on devait les éventer et les ranimer, et tout ça. Voilà tout ce que je savais des pentecôtistes. Il a dit, « Qui penses-tu va t'écouter ?» J'ai dit, « Si Dieu m'envoie, il y a quelque part et quelqu'un vers qui il m'envoie. » C'est vrai, voyez. En effet, j'ai dit, « Docteur Davis, j'ai dit, il était vraiment réel. J'étais là et je le regardais. » J'ai dit, « On m'a dit que ces visions, je suis un grand croyant, frère, en ce que les dons et les appels sont sans repentance. Je crois ça. Vous êtes né, vous ne pouvez pas être quelque chose que vous n'êtes pas. Et quand vous essayez de vous faire passer pour quelque chose que vous n'êtes pas, vous ne faites que jouer le rôle d'un hypocrite. Et que Dieu me fasse mourir plutôt que je devienne un hypocrite. Vous voyez, que je sois ce que je suis, simplement. Et puis que je le fasse comprendre clairement. Et puis que je sois comme ça. Et là, tout le monde sait. Alors, vous savez exactement. Et alors, maintenant, comme vous savez, je n'ai pas fait beaucoup d'études, comme je l'ai dit. Alors, en théologie, je suis le plus médiocre de tous. Et je pense que vous le savez, vous voyez. Et comme prédicateur, je peux à peine dire que j'en suis un, parce que je n'ai pas fait d'études, que je ne connais pas les mots, et ainsi de suite. Mais le peu que j'ai pour... ce que j'ai comme connaissance de connaître par sa grâce le Seigneur Jésus. J'essaie de partager ça avec tous mes frères partout, de partager ça. Mais quand j'ai quitté l'Église baptiste, qui est la seule église où je sois jamais entré, ou dans laquelle j'ai été ordonné, et j'ai été ordonné en 1933 dans l'Église baptiste missionnaire à Jeffersonville dans l'Indiana. C'est un membre de la Southern Baptist Convention. Alors nous, à ce moment-là, quand je suis sorti et que maintenant l'Église baptiste est une église souveraine, nous savons tout ça, que c'est une Vous pouvez prêcher à peu près tout ce que vous voulez, si votre assemblée l'accepte. Vous prêchez ce que vous désirez. Et j'aime ça, vous voyez, parce que je crois que c'est apostolique. En effet, le chef, l'ordre le plus élevé de l'Église, c'est le berger. Nous comprenons ça, le pasteur. Si un évêque ou quelqu'un d'autre est là pour ôter au pasteur sa révélation, alors comment Dieu pourra-t-il jamais agir dans son Église? Vous voyez, on n'y arrive pas, c'est tout. Quand je suis sorti de là, j'ai rencontré le premier groupe, ce qui était la guérison de la petite Betty Daugherty, à Saint-Louis, dans le Missouri. Et c'était une église unipentecôtiste, ou une église pentecôtiste du nom de Jésus. Et ce pasteur y appartenait, et sa petite fille a été guérie. Franchement, je pensais que c'est ce qui faisait de lui un pentecôtiste, qu'il s'appelait Jésus seul. Je pensais que c'est ça qui faisait d'eux des pentecôtistes, que c'était parce qu'ils s'appelaient comme ça, et que c'était là la différence. Ensuite de là, je suis allé à... Et un homme bien. On a eu une grande réunion à Saint-Louis, dont on a la photo là-dedans. Et on avait l'auditorium Kiel. Et après un soir ou deux, on a fait salle comble, avec 14 000 personnes. Et on ne pouvait même pas... Il a fallu mettre des policiers près des portes pour les empêcher d'entrer. Et puis, de là, en continuant, chez Richard T. Reed, du tabernacle du bon vieux temps de la Bible, à Jonesboro, qui était aussi de la même organisation. Et de là, chez le docteur G. H. Brown, même organisation, au 505 rue Victor à Little Rock, Arkansas. Et de là, à la côte ouest. Et là, quand je suis arrivé sur la côte ouest, j'ai fait connaissance avec le feu. Là, j'ai découvert qu'il y avait autant de divisions parmi les pentecôtistes dans leurs organisations qu'on en a nous, les baptistes. Vous voyez, il y en avait tellement de différentes. Il y avait les assemblées de Dieu, et l'église de Dieu, et les autres choses, et les autres choses, et les autres choses, et les différents. Et ils s'étaient séparés, ils avaient tracé des petites frontières. Et tous les autres frères se sont mis à venir vers moi et à me dire, « Oh, vous êtes un Jésus seul avec ce groupe là-bas. » J'ai dit, non, je ne me donne pas ce nom-là, voyez. Il a dit, mais vous les fréquentez, pas vrai? J'ai dit, eh bien, je n'en suis pas un pour autant, voyez. Et j'ai dit, je ne fais que, ils étaient des frères. Et il a dit, oh, ils sont un tas de, oh, ils n'ont rien d'autre qu'un tas de perchoirs à vautours et tout, par là, comme ça. Où j'ai dit, là, je regrette. J'ai rencontré des hommes vraiment pieux, là. Et ce sont des hommes de Dieu. Et j'ai dit, je n'admets pas du tout qu'on dise qu'ils sont mauvais, parce qu'ils ne le sont pas. Bon, alors j'ai essayé de tenir aussi longtemps que j'ai pu, sans me prononcer pour l'un ni pour l'autre. Bon, je me suis mis à étudier quelles étaient leurs idées et quelles étaient leurs séparations et ce qui les séparait. Et j'ai trouvé que deux des grands groupes, l'un d'eux s'appelait Jésus seul et l'autre s'appelait les Assemblées de Dieu. Et ils se sont rassemblés ou séparés à cause de la question du baptême d'eau. L'un utilisait Père, Fils, Saint-Esprit et l'autre utilisait le nom de Jésus. Bon, je regardais, et des deux côtés, il y avait de grands hommes, des serviteurs de Dieu. Et je me disais, « Oh Dieu, si seulement je pouvais tous les voir émerger pour avancer simplement et avoir, mais de ne pas tracer leurs lignes en disant, nous ne fraterniserons pas les uns avec les autres. » Mais j'ai découvert, là-dedans, que l'esprit mauvais s'était introduit parmi eux. Il avait suscité de la haine et de la méchanceté sur des questions qui s'étaient déclarées parmi eux. Je me suis dit que ça faisait tout à fait l'affaire du diable. C'est exactement ce qu'il veut. Tant que vous braquez vos fusils les uns sur les autres, il n'a pas besoin de lever le petit doigt. Et puis alors, finalement, l'épreuve de force est arrivée. Et cette épreuve de force a eu lieu à Seattle, dans le Washington, vers 1946. Et un matin, on m'a amené dans le hall d'un hôtel, un peu comme ici, pour un déjeuner avec quelques prédicateurs. Et je devais parler à deux hommes principaux. Et l'un d'eux était le docteur Ness. Je suppose que vous, les frères des Assemblées de Dieu, vous vous souvenez de lui. Il était du territoire nord-ouest, un grand homme, intelligent, un érudit. Et il représentait les Assemblées de Dieu. Et puis, le docteur Sism, de l'église pentecôtiste unie. Je pense que vous, les frères pentecôtistes unis, vous vous souvenez de lui. Lui aussi, il était des territoires nord-ouest, là-bas. Il était à la tête de ceux-là et des districts de là-bas. Eh bien, ces deux hommes se sont rencontrés et j'allais être amené devant eux parce que la tension montait et on m'attaquait de tous côtés. Et je me disais, qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je peux faire? Maintenant, bon, il disait, bon, vous devez prendre parti pour l'un ou pour l'autre. Si vous voulez marcher avec ceux du nom de Jésus, il faut que vous soyez du nom de Jésus. Et si vous allez avec les assemblées de Dieu, il faut que vous quittiez ceux du nom de Jésus et que vous soyez des assemblées de Dieu, ou ainsi de suite. C'était arrivé à un point où je devais ouvrir mon jeu, en quelque sorte. J'ai beaucoup prié ce matin-là, avant d'y aller. J'ai dit, « Oh Dieu, aide-moi. » En effet, il y a là deux grands hommes. Il y a des milliers de serviteurs. Et tu m'as envoyé ici avec un ministère. Et ils sont tous les deux tes serviteurs. Et est-ce que je devrais donner le peu d'influence que j'ai à une organisation alors qu'elle combat l'autre? Voyez, je n'arrive pas à trouver que ce serait bien de faire ça. Je ne pense pas que ce serait la volonté de Christ que je le fasse. Et j'ai dit, « Oh Dieu, aide-moi et donne-moi quelque chose à faire ou donne-moi quelque chose à dire. » Et puis, je n'avais personne. J'ai seulement dû me tenir là, rien que le Seigneur Jésus et moi, ce matin-là. Eh bien, le grand débat a été soulevé. Qu'est-ce que vous allez faire? Quelle décision est-ce que vous allez prendre? J'ai dit, « Ma décision est déjà prise. » Là, ma décision, c'est de me tenir entre vous deux et de ne me joindre à aucune organisation et de dire, en vous entourant tous les deux de mes bras, « Nous sommes frères. » Voyez? Vous voyez? Nous sommes frères. Voyez? Et j'ai dit, j'ai essayé de lire tous les livres que j'ai pu, comment tout cela est venu, ce qu'on appelait cette nouvelle question, et comment ils s'étaient séparés, et comment celui-ci avait commencé comme ceci et comme cela. Et j'ai dit, dans les disputes qu'il y a entre vous, j'ai dit, c'est la même chose que ce qui a divisé le mouvement de Pentecôte le jour après la Pentecôte. Ils se sont mis à se disputer entre eux. Et j'ai dit, c'est encore cette chose-là qui sépare. J'ai dit, est-ce qu'il y a une possibilité qu'il y ait un moyen terme entre vous, vous les frères? Est-ce qu'il y a quelque chose qui puisse tenir? Eh bien, ils ne voulaient pas ouvrir la bouche là-dessus, parce que c'était très tendu. Vous savez, il y a environ 15, 20 ans, comment c'était? Parce qu'un groupe venait de se séparer de l'autre. Il y avait beaucoup de disputes. Donc, j'ai dit, eh bien, frère, voici ce que je vais faire. Ce n'est pas pour baptiser que Dieu m'a envoyé, de toute façon. Il m'a envoyé prier pour ses enfants malades. J'ai dit, alors, ce que je vais faire, c'est de prier pour les enfants malades. Et vous, les prédicateurs, vous ferez vos baptêmes vous-même. J'ai dit, maintenant, je veux vous demander quelque chose, juste pour que vous compreniez. J'ai dit, frère Ness, ces gens du nom de Jésus, croyez-vous qu'ils ont reçu le Saint-Esprit quand ils parlent en langue et qu'ils font la même chose que vous, des assemblées de Dieu, vous faites? Il a dit, certainement. J'ai dit, frère Sism, croyez-vous que les assemblées de Dieu ont le Saint-Esprit quand ils parlent en langue et qu'ils font la même chose que ce que vous avez fait après avoir été baptisé? Il a dit, bien sûr que oui. J'ai dit, maintenant la Bible dit, Dieu donne le Saint-Esprit à ceux qui lui obéissent. Maintenant, qui est-ce qui lui a obéi? Qui est-ce qui lui a obéi? Lequel d'entre vous lui a obéi? Et Dieu vous a donné le Saint-Esprit à tous les deux, vous voyez? J'ai dit, diriez-vous, frère Sism, que frère Ness n'a pas le Saint-Esprit? Il a dit, non. J'ai dit, diriez-vous que frère Sism n'a pas le Saint-Esprit? Non. Vous voyez ça? Ils croyaient tous les deux que l'autre avait le Saint-Esprit. Mais vous voyez, ça n'a vraiment aucun sens, frère. Ça n'a aucun sens. Et j'ai entendu, peu de temps après ça, je vais revenir à mon sujet dans un instant. Les frères finlandais, ici, après que j'ai quitté la Finlande, où Dieu nous a donné, à mon avis, une de nos réunions les plus glorieuses, là où le petit garçon mort a été ressuscité, et beaucoup de choses. À Stockholm, en Suède, j'ai rencontré Levi Petrus, de l'église Philadelphia, là. C'est un grand homme de Dieu. Et l'église Philadelphia, frère Gordon Lindsay, qui était, maintenant, je ne pense pas qu'il en fasse partie maintenant, mais il faisait partie des assemblées de Dieu. Et les assemblées de Dieu sont un de mes principaux commanditaires dans le monde entier. Et ceux de l'évangile aux quatre coins, qui sont sortis des assemblées de Dieu, sont un de mes principaux commanditaires, les unitaires, dans le monde entier. Ce sont un de mes principaux commanditaires, voyez? Et j'ai simplement pris cette position-là, quitte à laisser des tensions. Et puis, j'ai pris une position, comme quoi je ne prendrai parti pour aucun des côtés de cette chicanerie, jusqu'à ce que nous puissions voir que nous sommes frères et nous rassembler. Alors nous verrons tous ce même point précis, là, auquel nous arrivons, le motif et l'objectif pour lequel on le fait. Et vous devez tester votre motif et votre objectif d'abord. D'abord, trouvez la volonté de Dieu, et ensuite, trouvez votre objectif. Et ensuite, testez votre motif pour voir si votre motif est bon. Alors, comme Jésus l'a dit dans Marc 11, 24, si vous dites à cette montagne, ôte-toi de là, et si vous ne doutez pas dans votre cœur, mais tant que vous avez du doute dans le cœur, à savoir si oui ou non c'est la volonté de Dieu, ou si votre motif ou que votre objectif sont faux, comment est-ce qu'elle bougerait? Mais quand vous savez que votre motif est juste et que c'est la volonté de Dieu et que votre objectif est juste, elle doit bouger. Voilà tout. Sinon, Dieu aurait dit quelque chose de faux. C'est la raison même pour laquelle, quand je vais sur l'estrade, dans des églises, personne ne m'a jamais entendu mentionner ces choses sur l'estrade. Ces questions, je les laisse de côté. C'est tout. Vous voyez ça? C'est votre affaire à vous, les frères. Voyez, je suis ici pour vous aider à gagner des âmes à Christ par un don divin. Vous voyez, ça ne change rien. Faites vos baptêmes vous-même. Mais après, quand il s'est agi, bien sûr, on m'a traité de tous les noms. On m'a traité, je ne sais pas de combien de noms, de tout, depuis un fils de Dieu incarné jusqu'à un démon. C'est vrai, de tout. Mais au fond de tout ça, je suis votre frère, concitoyen du royaume de Dieu, qui travaille avec vous tous pour le royaume. Et c'est bien vrai. Maintenant, si ça vous va, et si vous pensez que nous avons assez de temps, j'aimerais vous dire comment la discussion s'est passée. Est-ce que ça vous va, frère? Juste un instant? Frère Ness et les autres. Très bien. Et ça pourrait être un petit quelque chose pour vous aider. Ça vous aiderait à comprendre, en quelque sorte. J'ai mis par écrit ici certaines des choses que je me suis rappelées. C'était parti de là. Et donc, ils m'ont demandé ce que je croyais de la Trinité. Si je croyais qu'il y avait une Trinité de Dieu. Maintenant, frères, comme nous allons aborder ceci, j'espère que, quand ce sera terminé, nous serons les mêmes frères que nous avons toujours été depuis le début. Voyez? Mais j'estime que je vous dois ça, parce que les gens de chez vous viennent à mes réunions. Et je ne voudrais assurément pas que l'un d'eux reparte séduit à cause de moi. Et j'ai toujours dit aux gens qui m'écrivent des questions, en dehors de ce que je prêche en chair, et mon secrétaire est ici, et tout. S'il me pose une question, qu'en est-il de ceci, ou qu'en est-il de cela, j'ai dit, demandez à votre pasteur, vous voyez. En effet, s'il vous a amené jusqu'ici, au point où vous ayez reçu le Saint-Esprit, il continuera à vous faire avancer, vous voyez. Demandez à votre pasteur. En effet, des petites choses comme ça produisent de la confusion. Et par conséquent, je m'en tiens éloigné, vous voyez. Maintenant, et on m'a dit que j'étais un opposant des organisations. Maintenant, je n'en suis pas un. Je pense que les organisations, c'est merveilleux. Mais quand votre système de votre organisation se corrompt, voilà contre quoi je suis. Voyez? Peu importe que ce soit l'unité, ou que ce soit la Trinité, ou quoi que ce soit, le système, c'est que quand vous en arrivez à un point là, où vous dites, nous sommes les assemblées de Dieu. Eh bien, c'est qui de l'autre côté de la rue? Oh, ce sont nos frères. On les appelle les Pentecôtistes unis. Eh bien, et là-bas, c'est qui? Oh, ce sont les frères de l'Évangile des quatre coins. Oh, nous sommes de merveilleux frères. Nous avons une grande communion les uns avec les autres. Oh, vous croyez tous la même chose? Oh oui, nous croyons. Mais alors, qu'est-ce qui vous rend comme ceci? Eh bien, ces frères-ci baptisent comme ceci, et ceux-ci baptisent comme ceci. Tournez dans l'autre sens que nous. Et ceux-ci baptisent, c'est comme en Afrique du Sud, là, frère, on en a vu de ça. Ils m'ont demandé, un groupe baptise trois fois vers l'avant, et l'autre baptise trois fois vers l'arrière. Et ils ont dit, j'ai dit, où est-ce que vous prenez ça? L'un d'eux a dit, quand il est mort, la Bible dit qu'il s'est penché en avant. Et il a dit, donc, on doit les pencher en avant. Et j'ai dit, bon, à l'autre groupe, qu'est-ce que... Et vous? Il a dit, a-t-on jamais enterré un homme face contre terre? Eh bien, et vous savez quoi? Ils se sont séparés. Ils ont fait deux groupes, deux organisations. Oh, miséricorde, frère! Ça fait tout à fait l'affaire du diable. Ça fait tout à fait son affaire. Eh oui, faites-vous. Maintenant, voyez, ce n'est pas la mission de la foi apostolique, ou non plus les assemblées de Pentecôte, de l'autre côté. Ce n'est pas ça. Il y a des hommes bien dans les deux groupes, comme il y en a ici. Mais vous voyez, c'est le système de la chose. C'est tout comme les catholiques, comme je l'ai souvent dit. S'il est catholique et qu'il compte sur Christ pour le salut, il est sauvé. Certainement, c'est vrai. S'il compte sur l'Église, il est perdu. Et n'importe lequel de vous, frères pentecôtistes, vous savez que si nous comptons sur l'Église pentecôtiste pour nous sauver, nous sommes les plus malheureux des hommes. C'est vrai, parce que nous sommes perdus. C'est vrai. Mais si nous comptons sur Jésus-Christ, alors nous sommes sauvés. Par ta foi, quoi? Une œuvre achevée. Et ces petites choses de fonctionnement, et ces marques, ça ne change pas grand-chose. Maintenant, j'ai dit à frère Sisme et à frère Ness, pour répondre à votre question, j'ai dit, maintenant, je ne prends parti pour aucun de vous, frère. Et je sais que tant que vous vous disputez, vous avez tous les deux tort. Voyez, en effet, je préférerais avoir une doctrine fausse et le cœur juste, plutôt que d'avoir la doctrine juste et le cœur faux. Voyez, j'ai dit, après tout, c'est l'état de votre cœur. Et j'en ai fait une pratique de savoir ceci, que si un homme, peu importe ce qu'il fait et combien il est en désaccord, et ce qu'il dit de moi, si dans mon cœur, pas juste par devoir, mais de mon cœur, je ne peux pas aimer cet homme autant que j'aime n'importe qui d'autre, alors je sais qu'il y a quelque chose qui ne va pas ici, à l'intérieur. Vous voyez? C'est vrai. Parce que, peu importe s'il... Un petit frère est venu, il n'y a pas longtemps, un petit frère de l'Église de Christ, et oh, il s'est avancé, et il a dit, « Ce type est un démon !» Voyez, il disait, il parle du Saint-Esprit. Il disait, ça n'existe pas. Il n'y a que les 12 apôtres qui ont reçu le Saint-Esprit. Et la guérison divine n'a été donnée qu'aux 12 apôtres. Et il a continué environ une demi-heure. Et j'ai dit, un instant, frère, je pense que vous devriez me donner juste une occasion de défendre ceci. Vous voyez, j'ai dit, vous avez dit que vous parliez quand la Bible parlait et que vous, vous gardiez le silence quand elle était silencieuse. Et il a dit, « C'est bien ce que nous faisons. » J'ai dit, « Maintenant, vous avez dit qu'il n'y a que les 12 apôtres qui ont reçu le Saint-Esprit. » La Bible a dit qu'ils étaient 120 dans la chambre haute quand le Saint-Esprit a été déversé. Des femmes et tout. Et voudriez-vous me dire, pensez-vous que Paul n'avait pas le Saint-Esprit? Et lui l'a reçu longtemps après ça, vous voyez? Et vous avez dit que le don de guérison n'a été donné qu'aux 12 apôtres. Étienne est descendu quelques jours après. Il n'était pas l'un des 12. Il n'était même pas prédicateur. Il était diacre. Il est descendu en Samarie. Il a chassé des démons. J'ai dit, « Oh, frère, c'était très silencieux là, précisément où il fallait qu'il le soit. » Et après que c'était terminé, mais j'ai dit, « Je vous pardonne de m'avoir appelé un démon, parce que je sais que vous ne pensiez pas vraiment ça. » Et puis, après avoir terminé, il est venu vers moi. Il a dit, « Il y a une chose que je peux dire, vous avez l'Esprit de Christ. » J'ai dit, « Maintenant, frère, je suis quoi, un démon ou de Christ ?» Voyez? Voyez? Mais je vous dis, vous voyez, c'est parce qu'un homme, là, il pouvait voir que je l'aimais, même s'il était en désaccord, et terriblement en désaccord, et qu'il attaquait violemment. Je suis un chasseur, et avec les bêtes sauvages, toute ma vie. Et les gens ont dit, comment, la fois où j'ai dû tuer cet ours avec un couteau, vous voyez, on m'a dit, vous n'aviez pas peur de lui? J'ai dit, non, si j'avais eu peur de lui, il m'aurait tué, vous voyez? Mais, vous voyez, vous ne pouvez pas faire semblant avec eux. Ils savent si vous avez peur d'eux ou non. Si vous avez peur d'un cheval, vous allez voir ce qu'un cheval va faire. Il va vous piétiner, voyez? Donc, si vous avez peur, vous ne pouvez pas faire semblant. Vous devez réellement l'avoir. Et c'est pareil avec Satan. C'est pareil parmi les hommes. Vous devez aimer les hommes. Vous ne pouvez pas juste faire semblant. Vous devez l'avoir. Sinon, votre vrai jour va ressortir quelque part. Vous voyez? C'est vrai. Vous devez réellement aimer les gens. Et ils savent que vous les aimez. Vous voyez? Il y a quelque chose là. Et cet homme, voilà qu'il a appelé ma femme, il y a quelques jours. Il a dit, « Est-ce que frère Branham est là ?» Elle a dit, « Non. » Il a dit, « Eh bien, il y a une chose que je dois dire. » Je n'étais pas d'accord avec lui sur la théologie, mais je dis qu'il est un serviteur de Christ. Eh bien, alors, et puis, avant que je parte, il m'a envoyé une lettre et il disait, « Je vais venir. Dès que vous serez de retour, je veux ce baptême du Saint-Esprit dont vous parlez. » Donc, vous voyez, alors que si j'avais eu ce sentiment de dire, « Oh, vous ne valez rien, votre vieille dénomination ne vaut rien, et tous vos gens de l'Église de Christ ne valent rien, vous ne valez rien, vous êtes des démons. » Je n'aurais jamais gagné cet homme. Et si je lui avais dit que je l'aimais et que je ne le pensais pas dans mon cœur, il aurait su que ce n'était pas vrai. Voilà tout. Vous devez le penser de votre cœur. Et c'est ça, les soirs où j'avance sur l'estrade, sous ce discernement, vous voyez, je n'y pense pas. Tout ce que je fais, c'est que je ne mange pas de nourriture après le repas de midi. Et je jeûne et je prie et je reste dans la chambre parce qu'il m'a promis qu'il le ferait. Et par conséquent, j'y vais sans l'ombre d'un doute, parce qu'il a promis qu'il le ferait. Donc, vous voyez, je sais que mon motif est quoi? Mon objectif est quoi? Pour l'avancement du royaume de Dieu. Qu'un homme aille comme ceci, comme cela, quelle que soit l'église à laquelle il va, pourvu qu'il vienne à Christ, ça m'importe peu. Et c'est dans mon cœur, voyez? Et peu importe, si nous allons nous joindre à l'Église de Christ, c'est tout à fait en ordre, c'est très bien. À quelle Église il se joint, ça m'importe peu. Mais pourvu que j'ai gagné son âme à Christ, c'est le principal. Alors j'ai dit, frère Ness, pas pour être en désaccord. Maintenant, je vais montrer. Est-ce que je peux utiliser ça, frère? J'ai dit, je veux dire et expliquer. Et là, je peux vous dire, à vous les frères ici, maintenant, ne mentionnez pas ceci dans vos assemblées, et s'il vous plaît, et rendez-moi service, que je sois juste votre frère, vous voyez, et si j'ai tort, alors pardonnez-moi. Mais je veux vous expliquer, puisqu'il y a les deux groupes assis ici ce matin, les deux, les unitaires et les assemblées aussi, et la croyance trinitaire. Maintenant, je veux faire cette déclaration. Je veux dire que je crois que les deux côtés ont tort, tant qu'ils se disputent entre eux, parce que leurs motifs sont faux. Et tant que vos motifs sont faux, peu importe quel est votre objectif, mais que vos motifs pour cet objectif sont faux, alors ça ne marchera jamais. C'est vrai. Maintenant, certaines personnes ont dit, « Frère Branham, vous êtes un Jésus seul. » Je tiens à dire que ça, c'est une erreur. Je ne suis pas un Jésus seul. Quelqu'un dit, « Frère Branham, êtes-vous un trinitaire ?» Non, monsieur, je ne suis pas un trinitaire. Je suis un chrétien. Voyez, le mot trinitaire n'est même pas mentionné dans la Bible, le mot trinité. Et je ne crois pas qu'il y ait trois dieux distincts. Je crois qu'il y a un Dieu en trois fonctions. Père, Fils, Saint-Esprit. C'est exactement pour ça que nous avons reçu la commission de baptiser au nom de Père, Fils, Saint-Esprit. Je crois que c'est Dieu qui s'abaisse, qui descend. Maintenant, Dieu, quand il est apparu pour la première fois aux hommes, il était sous la forme d'une colonne de feu. Vous croyez ça, n'est-ce pas? Là, tout lecteur de la Bible sait ça, que la colonne de feu qui était dans le désert était le Logos, que c'était l'ange de l'Alliance, qui était Christ. En effet, il a dit, je crois que c'est Jean 6, là. Il a dit, avant qu'Abraham fût, il a dit, je suis. Il était le je suis. Donc, c'était Dieu, saint. Si un homme ne faisait que toucher la montagne, il devait être tué. Vous voyez? Très bien. Maintenant, le même Dieu essayait de parvenir à retourner dans sa créature qu'il avait créée. Maintenant, il ne pouvait pas les approcher parce qu'elles étaient pécheresses. Et le sang des boucs et des agneaux n'a jamais enlevé le péché. Nous savons ça. Il ne faisait que couvrir le péché. Maintenant, mais alors, ce même Dieu qui était la colonne de feu, il est devenu chair à travers son Fils et il a habité dans un corps appelé le Seigneur Jésus-Christ. La Bible dit, en lui habite corporellement la plénitude de la divinité. Et Jésus a dit dans 1 Timothée 3:16, sans contredit, le mystère de la piété est grand. Et si eux pouvaient dire qu'il était grand, alors nous, qu'est-ce qu'on ferait? Voyez, le mystère de la piété est grand, car Dieu a été manifesté en chair et vu des anges et élevé dans la gloire, et ainsi de suite. Maintenant, et il a dit dans Jean 14 à Thomas, « Quand tu m'as vu, tu as vu le Père. » pourquoi dis-tu, montre-nous le Père? La Bible dit que Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Maintenant, Dieu ne peut pas être trois personnes, trois dieux. Jésus ne peut pas non plus être son propre Père en un. Voyez? Donc, vous voyez, ça fait que les deux sont radicalement faux. Maintenant, si vous voulez bien remarquer, il n'y a aucun endroit, si nous avons trois dieux, nous sommes des païens. Ça, nous le savons. Comme le juif m'a dit une fois, quand je lui parlais, il disait, « Lequel d'entre eux est votre Dieu ? Lequel est votre Dieu ? Le Père, le Fils ou le Saint-Esprit ? Lequel est le vôtre ?» Et j'ai dit, « Eh bien, il n'y a pas trois dieux. » Il a dit, « Vous ne pouvez pas couper Dieu en trois morceaux et le donner à un juif. » J'ai dit, « Non, monsieur. » J'ai dit, « Quand John Ryan avait été guéri de la cécité là, à Fort Wayne, vous savez, et ce rabbin là, à Mishawa ou à Fort Benton Harbor, il a dit, « Vous ne pouvez pas couper Dieu en trois morceaux et le donner à un juif. » J'ai dit, « Certainement pas. Je ne le fais pas. » J'ai dit, « Rabbin, est-ce qu'il vous serait difficile de croire au prophète ?» Il a dit, « Non. » J'ai dit, « Dans Ésaïe 9:6, de qui est-ce qu'il parlait ?» Un enfant nous est né, un fils nous est donné, on l'appellera conseiller, Dieu puissant, prince de la paix. Il a dit, c'était le Messie. J'ai dit, alors rabbin, que sera le Messie par rapport à Dieu? Il a dit, il sera Dieu. C'est ce que je pensais, voyez. Maintenant, vous voyez, c'est tout à fait vrai. C'est ce qu'il est. Alors j'ai dit, maintenant, dites-moi où Jésus a manqué d'accomplir exactement ce que le prophète a dit qu'il ferait. Et il s'est mis à pleurer et à marcher de long en large. J'ai dit, c'est par cela que John Ryan a recouvré la vue, voyez. Et il a dit, loin de Dieu, l'idée d'avoir un fils. J'ai dit, le grand Jéhovah a couvert une femme de son ombre, comme le prophète avait dit qu'il le ferait, et il a créé une cellule de sang. Et c'est par cette cellule de sang qu'a été produit le corps de Christ. Regardez, dans l'Ancien Testament, rabbin, j'ai dit, quand un homme allait faire une offrande, il prenait un agneau. Il savait qu'il avait enfreint les commandements de Dieu, donc il prenait un agneau. Il confessait ses péchés, et cet agneau était mis à mort. Pendant que ses mains étaient sur l'agneau, pour confesser qu'il savait qu'il devait mourir à cause de son péché, mais que l'agneau prenait sa place. Et la cellule de sang était brisée. Il tenait le petit agneau par la main jusqu'à ce qu'il sente sa petite vie le quitter et qu'il se raidisse. Alors, le sacrificateur, bien sûr, jetait le sang sur le feu, l'autel d'airain du jugement. Alors j'ai dit, cet homme, alors, il sortait de là en sachant que l'agneau avait pris sa place. Mais il sortait avec le même désir qu'il avait en entrant, vous voyez, parce que ça ne pouvait pas ôter le péché, vous voyez. Mais alors, dans ce cas-ci, celui qui rend ce culte, étant une fois purifié, n'a plus aucune conscience du péché. Là, il y avait une offrande qui était faite chaque année. Mais j'ai dit, maintenant, il y a cette fois-ci, celui qui rend ce culte, étant une fois purifié, n'a plus aucune conscience du péché. En effet, regardez, rabbin, dans l'hémoglobine, cette petite vie qui commence dans la cellule, elle vient du sexe mâle, elle entre dans la femelle, et celle-ci produit l'œuf. Seulement, une poule peut pondre un œuf, mais si elle n'a pas été avec l'oiseau mâle, il n'éclora jamais. Et j'ai dit, alors Dieu, le plus grand, qui remplissait tout le temps et tout l'espace, s'est fait tout petit, un petit germe au sein d'une femme. Et puis, j'ai dit, quand nous sommes sauvés aujourd'hui, Jésus n'était ni juif ni des nations, parce que l'ovule avait seulement produit la chair. Le sang avait la vie. Donc la Bible dit, nous sommes sauvés par le sang de Dieu. Vous voyez, il n'était ni juif ni des nations. Il était Dieu. Par conséquent, quand nous venons à l'autel et que nous mettons nos mains par la foi sur sa tête et que nous ressentons le déchirement et l'agonie du calvaire, et que nous confessons nos péchés, que nous avons tort, et qu'il est mort à notre place. Alors, vous voyez, j'ai dit, le sang de cet agneau ne pouvait pas revenir sur ceci. Le sang qui, la cellule a été brisée, et la vie qui était libérée par la rupture de cette cellule de sang de l'agneau ne pouvait pas revenir sur l'adorateur, parce que c'était une vie animale, et elle n'était pas compatible avec la vie humaine. Mais cette fois-ci, quand cette cellule de sang a été brisée, il ne s'agissait pas simplement d'un homme. Là, c'était la vie de Dieu qui était libérée. Et quand l'adorateur pose ses mains par la foi sur le Fils de Dieu et qu'il confesse ses péchés, pas la vie d'un autre homme, mais la vie de Dieu revient sur cet homme, ce qui est la vie éternelle. Le mot « Zoé » qui se traduit par la vie même de Dieu. Il a dit qu'il nous donnerait Zoé, la vie éternelle. Et maintenant, nous sommes des fils et des filles de Dieu. Voilà. J'ai dit, maintenant, qu'est-ce que c'est? C'est Dieu qui s'abaisse. Il est venu, d'abord, aucun homme ne pouvait le toucher, parce que l'homme avait péché. Ensuite, il est descendu dans un corps, pour goûter au péché, pour prendre le péché. Vous voyez, la seule chose que Dieu pouvait faire, pour être juste, c'était de le faire comme ça. Par exemple, qu'en serait-il si j'avais la juridiction sur cet auditoire ce matin, comme Dieu l'avait sur la race humaine, et que je disais, le premier homme qui regardera ce poteau mourra, et que Tommy Hicks le regarde. Maintenant, par exemple, je prendrais Carl, faire Carlson. Vous mourrez pour lui. Ce ne serait pas juste. Je dirais, Léo, tu es mon secrétaire. Toi, meurs pour lui. Ce ne serait pas juste. Billy Paul, mon fils, toi, meurs pour lui. Ce n'est pas juste. La seule façon pour moi d'être juste, c'est de prendre sa place moi-même. Et c'est ce que Dieu a fait. Dieu est un esprit. Et il a créé. Il a changé de rôle. Ça devrait être frappant pour les gens de penser au petit Jéhovah. Il aurait pu venir comme homme adulte, mais il est venu dans une crèche, au-dessus d'un tas de fumier. Le petit Jéhovah qui pleurait comme un bébé, le petit Jéhovah qui jouait comme un garçon, le petit Jéhovah charpentier comme un ouvrier, le petit Jéhovah adolescent, Jéhovah suspendu entre ciel et terre, avec de la bave d'ivrogne et des crachats de soldats sur son visage, Jéhovah qui mourait pour ses enfants. Jéhovah qui mourait pour racheter, pas quelqu'un d'autre, mais Dieu lui-même. Vous voyez, Dieu, c'était sa fonction. Pourquoi? Il essaye de retourner au cœur de l'homme. Or, on ne pouvait pas le toucher là. Ici, on l'a touché de nos mains. Maintenant, qu'est-ce qu'il a fait? À travers l'offrande de ce corps, il est devenu Jéhovah en nous. Nous faisons partie de lui. Le jour de la Pentecôte, la colonne de feu s'est séparée tout d'un coup, et des langues de feu se sont posées sur chacun pour montrer que Dieu se séparait parmi son Église. Alors frères, si seulement nous pouvons nous réunir et rassembler cela, alors nous avons Jéhovah dans la plénitude quand nous nous réunissons. Mais comment est-ce qu'on peut le faire quand celui-ci parle en langue et qu'il a le baptême, celui-ci, et puis qu'on garde cette langue de feu-ci, par ici, et celle-ci? Rassemblons cela. Quand Dieu, le jour de la Pentecôte, est descendu, et la Bible a dit que des langues de feu se posèrent sur chacun d'eux, et des langues semblables à un feu, des langues. C'était cette colonne de feu qui se séparait et qui se divisait parmi les gens pour que nous soyons frères. Ce jour-là, vous connaîtrez que je suis dans le Père en moi, moi en moi et vous en moi. Et nous sommes un. Nous sommes un, pas divisés. Maintenant, Jéhovah Dieu, là-haut, ne pouvait pas toucher la race humaine à cause de sa propre loi de sainteté. Jéhovah Dieu est devenu péché pour nous et il a payé le prix pour que ce même Jéhovah Dieu puisse venir vivre en nous. Dieu au-dessus de nous, Dieu avec nous, Dieu en nous. Pas trois dieux, un Dieu. Des professeurs deviennent fous à essayer de comprendre ça. C'est une révélation. Il faut que ça vous soit révélé. Maintenant, pour ce qui est du baptême, là, beaucoup de gens, maintenant, vous devez faire ça, frère. Ou, c'est comme j'ai dit à frère Sisme et à frère Ness, que si vous, la querelle s'est déclarée, et tous, beaucoup d'entre vous qui êtes des érudits ici, vous êtes plus aptes que moi, mais j'ai beaucoup étudié le sujet, et j'ai lu les pères préniciens, le Concile de Nicée et tous les historiens, et ainsi de suite. Cette question a été soulevée au Concile de Nicée. Les deux côtés n'ont rien donné de bon. Quand l'Église catholique a adopté le point de vue trinitaire, extrémiste, et que l'autre s'est faite unitarienne, alors les deux côtés sont partis de travers. C'est tout à fait vrai, parce que l'homme avait quelque chose à y voir. Vous devez laisser Dieu le faire, et nous n'avons pas besoin de chercher à comprendre. Soyons frères, avançons, c'est tout, et laissons Dieu faire la chose qu'il va faire. S'il est infini, et qu'il connaît toutes choses, et qu'il a prévu la fin dès le commencement, comment pouvons-nous y faire quoi que ce soit? Continuez à avancer, c'est tout. Voilà comment faire. Restez au diapason, comme je l'ai dit hier soir, avec notre grand Josué. Maintenant, regardez. S'il y a trois dieux, je veux juste vous montrer comme c'est ridicule. S'il y a trois dieux, alors Jésus était son propre père. Jésus ne peut pas avoir été son propre père en étant un. Et s'il y en a trois, il n'est pas né d'une naissance virginale. Maintenant, combien? Je vais dire que ça, c'est Dieu le Père. Et ça, c'est Dieu le Fils. Et ça, c'est Dieu le Saint-Esprit. Maintenant, pour vous, les différents frères ici, observez ceci un instant, et vous verrez ce que j'essaie de montrer. Je prie Dieu de vous le faire voir. Maintenant, regardez, vous croyez tous les deux la même chose, mais le diable s'est seulement interposé entre vous et vous a divisé là-dessus. C'est exactement la même chose, et je vais vous le prouver, avec l'aide de Dieu et par la Bible de Dieu. Si ce n'est pas la Bible, alors ne le recevez pas, c'est vrai. Mais maintenant, regardez, ça, c'est quoi? Dieu le Père, ça, c'est Dieu le Fils, ça, c'est Dieu le Saint-Esprit. Bon, maintenant, arrêtons-nous une minute, maintenant, en posant ces trois, là. Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Oh, je ne vais pas avoir le temps de faire ceci. Mais vous voyez, eh bien, je vais faire vite, aussi vite que je peux. Pardonnez-moi, mes frères, mais je n'ai jamais eu l'occasion de vous parler, et je tiens à le faire. Alors, regardez, Dieu le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Maintenant, qui était le Père de Jésus-Christ? Dieu était le Père de Jésus-Christ. Nous croyons tout ça, pas vrai? Très bien. Maintenant, quand nous prenons Matthieu 28, 19, quand Jésus a dit, « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, Fils, Saint-Esprit. » 10 jours après, Pierre a dit, « Repentez-vous et soyez baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ. » Il y a une contradiction évidente quelque part. Maintenant, n'allons pas, il y a une, tout le monde a témoigné et tout. La voici. Voici ma croyance. Et je ne fais que vous l'exposer, frère. Je ne dis pas ceci derrière les chairs. C'est votre affaire à vous. Mais je veux vous montrer ce que je vois des deux côtés, pour que le Saint-Esprit vous le révèle. Vous voyez? Maintenant, Matthieu 28, 19. Et si Matthieu 28, 19 contredit Actes 2, 38, alors il y a une contradiction dans la Bible. Elle ne vaut même pas le papier sur lequel elle est écrite. Maintenant, si vous remarquez dans Matthieu, au chapitre 16, Jésus a donné à Pierre la révélation et il lui a donné les clés. Maintenant, rappelez-vous, la Bible n'est pas révélée par la théologie d'un programme fait de main d'homme. Pas du tout. C'est une révélation. C'était une révélation dès le départ. Pourquoi Abel a-t-il offert à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn? Il lui a été révélé que ce n'était pas des pêches et des pommes et des oranges et des pommes. Si des pommes, ça fait prendre conscience aux femmes qu'elles sont nues, on ferait mieux de passer les pommes de nouveau, frère. Vous ne pensez pas? Maintenant, ça a l'air sacrilège, mais ce n'était pas mon intention en le disant. Mais ce n'était pas des pommes, non, monsieur. Maintenant, et si c'est ainsi, alors, il était révélé à Abel qu'il était le sang de son père. Donc, il a offert du sang, parce que c'était une révélation. Le tout est bâti là-dessus. Maintenant, regardez, voici un vieux pêcheur ignorant, pas même assez d'instructions. La Bible dit qu'il était ignorant et sans instruction. Mais il était là, et Jésus a posé la question, « Qui dites-vous que je suis ? Moi, le Fils de l'homme. » Quelqu'un a dit, « Eh bien, que tu es Moïse. » Ils disent que tu es Moïse. Qui est-ce qu'il... Est-ce que... Ils disent... Et quelqu'un a dit, « Eh bien, que tu es Jérémie ou les prophètes. » Et ceci, cela ou autre chose. Il a dit, « Là n'est pas la question. Je voulais demander à vous, qui dites-vous que je suis ?» Et Pierre n'a pas hésité. Il a dit, « Tu es le Fils de Dieu. » Et il a dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas. » Maintenant, regardez bien. Ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Voyez? Maintenant, regardez bien. Maintenant, l'Église catholique dit qu'il a bâti l'Église sur Pierre. C'est faux. L'Église protestante dit qu'il l'a bâti sur lui-même. Mais maintenant, regardez bien, pour savoir, pour voir si c'est ça. Il l'a bâti sur la révélation spirituelle de qui il était. Vous voyez, parce qu'il a dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas. Ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela. Moi, je dis que tu es Simon, sur cette pierre. Quelle pierre? La révélation. Je bâtirai mon église, et les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elle. » Et puis, alors que Pierre était là, présent, quand Matthieu 28 a été cité, voilà qu'il s'est retourné, et 10 jours plus tard, avec cette révélation, il a baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi est-ce qu'il l'a fait? Alors qu'il avait la révélation de Dieu, et il avait les clés du royaume, frère. Maintenant, je vais peut-être vous blesser pendant un instant, un côté parmi vous, mais arrêtez-vous juste un instant. Il n'y a pas un seul endroit dans la Bible où qui que ce soit ait jamais été baptisé au nom de Père, Fils, Saint-Esprit. Il n'y a pas un seul endroit dans les Écritures, et s'il y en a, produisez-le. Et si vous pouvez trouver n'importe où dans l'histoire sacrée, jusqu'à la formation de l'Église catholique, je vous demande de le produire. Il n'y a aucun endroit là, et c'est vrai. Mais maintenant, attendez un instant, vous les unitaires, juste une seconde. Maintenant, il n'y a aucun endroit où, si un homme peut me montrer un seul texte de l'Écriture, où cette cérémonie a été utilisée dans la Bible, de Père, Fils, Saint-Esprit, vous êtes tenu de venir me dire où quelqu'un a été baptisé comme ça. Et certains d'entre eux disent, « Eh bien, je vais prendre ce que Jésus a dit, pas ce que Pierre a dit. S'ils étaient contraires l'un à l'autre, qu'allons-nous faire? Ce n'est pas tout Dieu, quelle partie de la Bible est bonne? Il faut qu'elle coïncide toutes et qu'elle s'assemble, et uniquement la révélation de Dieu. Nos écoles ne l'enseigneront jamais. C'est une révélation que vous devez la voir. Alors, si ces deux hommes étaient contraires l'un à l'autre, alors quelle sorte de Bible est-ce que nous lisons? Comment est-ce que je sais si Jean 14, c'est juste ou pas? Comment est-ce que je sais si Jean 3, c'est juste ou pas? Comment est-ce que je sais? Voyez? Mais la seule manière que je puisse avoir la foi en Dieu, c'est de savoir que cette Bible est juste, et de croire qu'elle est juste, et de m'en tenir à elle. Même si je ne la comprends pas, je la mets quand même en action. Mais quand ces contradictions apparaissent, alors je m'approche de Dieu pour savoir. Et le même ange qui me rencontre dans la réunion, et le soir, c'est celui-là même qui m'a enseigné ceci. Voyez? Maintenant, voyez si c'est comme on sait maintenant. Maintenant, Matthieu 28, 19. Soyons attentifs pendant un instant là. Et maintenant, je vais prendre Actes 2, 38, ici même, où Pierre a dit, « Le Seigneur Jésus-Christ. » Et Matthieu a dit, « Père, Fils, Saint-Esprit. » Maintenant, écoutez, il a dit, « Baptisez-les, pas dans le nom du Père, dans le nom du Fils, dans le nom du Saint-Esprit. » Il n'a jamais dit ça. Il n'y a pas de nom au nom. Au nom. Il n'a jamais dit « baptisez-les dans les noms du Père, Fils et Saint-Esprit » parce que ce n'est même pas censé. Il a dit « baptisez-les dans le nom, N-O-M, du Père, Fils et Saint-Esprit ». Pas vrai? Du Père, Fils et Saint-Esprit. La conjonction est. Pas les noms, pas au nom du Père, nom du Fils, nom du Saint-Esprit. Pas au nom du Père, Fils et Saint-Esprit, mais au nom N-O-M, singulier, du Père, Fils et Saint-Esprit. Maintenant, lequel d'entre eux est le bon nom dans lequel il faut baptiser? C'est un nom. Lequel est-ce? Est-ce que c'est Père, le bon nom? Ou est-ce que c'est Fils, le bon nom? Ou est-ce que c'est Saint-Esprit, le bon nom? C'est un nom, quelque part. Pas vrai? Eh bien, alors, maintenant, je veux vous demander quelque chose. Si le nom, alors, si Jésus a dit, « Baptisez-les au nom du Père, Fils et Esprit », combien croient que Jésus a dit ça? Ça, ce sont les Écritures. C'est Matthieu 28, 19. Au nom du Père, Fils. Est-ce quelque chose que nous... Non, c'est... Je pensais... Très bien, monsieur. Oui. Très bien. Maintenant, au nom du Père, Fils et Saint-Esprit. Maintenant, écoutez, frère, il n'existe pas de nom du Père, parce que Père n'est pas un nom, c'est un titre. Il n'existe pas de nom de Fils, parce que Fils est un titre. Il n'existe pas de nom de Saint-Esprit, c'est ça qu'il est. Je disais ça à un déjeuner de prédicateurs un matin. Et une femme, contraire à l'ordre, bien sûr, n'importe qui interromprait quelque chose comme ça. Elle a dit, « Attendez une minute là, je regrette. » Elle a dit, « Saint-Esprit, c'est un nom. » J'ai dit, « C'est ça qu'il est. Je suis un humain. Mais mon nom, ce n'est pas humain. Il est le Saint-Esprit. Ce n'est pas un nom. C'est ça qu'il est. C'est un nom commun, bien sûr, mais ce n'est pas un, ce n'est pas un nom. Maintenant, s'il a dit, baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, et que ni Père, ni Fils, ni Saint-Esprit n'est un nom, alors quel est le nom? Nous voulons le savoir. Maintenant, si vous voulez être attentif, nous pouvons tout trouver à un endroit, ici, et servir un peu de temps, c'est-à-dire sauver un peu de temps. C'est ça que je voulais dire. Maintenant, remarquez Matthieu 28, 19. Maintenant, je ne dis pas que... il se peut que vous l'ayez fait, certains d'entre vous, les sœurs ou les frères. Il se peut que vous ayez ramassé un livre un jour et regardé à la fin. Et ça disait, Jean et Marie vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. Eh bien, qui sont Jean et Marie? Qui sont Jean et Marie qui vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants? Il n'y a qu'un seul moyen pour vous de jamais savoir qui sont Jean et Marie. Si c'est une énigme pour vous, c'est de reprendre le livre et de le lire. Pas vrai? Reprenez-le au début et lisez-le d'un bout à l'autre. Et ça va vous dire qui sont Jean et Marie. Eh bien, si Jésus a dit, Jésus-Christ, le Fils de Dieu, qui a dit, « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, Fils et Saint-Esprit, et que ni Père, ni Fils, ni Saint-Esprit n'est un nom. » Alors, si c'est une énigme, on ferait mieux de reprendre le début du livre. Maintenant, retournons au chapitre 1 de Matthieu, et nous allons commencer, là, ça donne la généalogie, jusqu'à ce qu'on arrive au verset 18. Maintenant, regardez bien. Maintenant, regardez bien, un instant. Ça, c'est le Père, à ma droite. Ça, au milieu, c'est le Fils. Et ça, c'est le Saint-Esprit. Maintenant, ça, c'est le Père de Jésus-Christ. Pas vrai? Dieu est le Père de Jésus-Christ. Nous croyons tous ça. Très bien. Maintenant, Matthieu 1, 18 a dit, « Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, avant qu'elles eussent habité ensemble, se trouva enceinte par la vertu du... » Je pensais que Dieu était son Père. Elle enfantera un fils, et on lui donnera le nom de Jésus. Et Joseph, son époux, qui était un homme de bien, ne voulait pas la diffamer, mais se proposa de rompre secrètement avec elle. Ainsi, comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe, et dit, « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du... » Je pensais que Dieu était son père. Maintenant, frère, est-ce qu'il a deux pères? Il ne peut pas. S'il l'était, il serait un enfant bâtard. Et quelle sorte de religion est-ce qu'on aurait là? Vous devez admettre que Dieu le Père et le Saint-Esprit, c'est un seul et même esprit. Bien sûr que oui. Bien sûr, il est un seul et même esprit. Bon, alors, on a vu ça. Elle enfantera un fils et on lui donnera le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de son péché. Tout cela arriva afin que s'accomplisse. Je suis en train de citer l'Écriture. Vous, les prédicateurs, vous le savez. Vous me suivez. « Afin que s'accomplit, avait annoncé le prophète par le Seigneur, la Vierge concevra, elle enfantera un enfant et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui, par interprétation, Dieu avec nous. » Pas vrai? Alors, quel est le nom du Père, Fils et Saint-Esprit? Eh bien, certainement. C'est pour ça que Pierre les a baptisés au nom de Jésus-Christ. Mais peu m'importe que vous soyez baptisés au nom de Rose de Saron, Lys de la Vallée, l'Étoile du Matin, ce sont des titres aussi. Si votre cœur est droit envers Dieu, il connaît votre cœur. Mais bon, là, j'ai exprimé ça. Bon, là, j'ai dit, là, frère Sisme a dit, bon, évidemment, bien sûr, ça avait l'air unitaire, alors il était tout à fait pour ça. Maintenant, j'ai dit, là, ici, je veux vous dire quelque chose maintenant. Vous voyez, j'ai dit, maintenant, je veux vous prouver que ces deux hommes ont dit la même chose. Maintenant, Matthieu a dit, au nom du Père. Pas vrai? Très bien. Et Pierre a dit, au nom du Seigneur. Matthieu 28, 19 a dit « au nom du Père » et Acte 2, 38 a dit « au nom du Seigneur ». David a dit « le Seigneur a dit à mon Seigneur ». Qui était-ce? Le Père et le Seigneur sont le même nom. David a dit « le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite ». Vous voyez, au nom du Père, au nom du Seigneur. Et Matthieu a dit « au nom du Fils ». Et Pierre a dit « au nom de Jésus. » Qui est le Fils? Jésus. Au nom du Saint-Esprit. C'était Matthieu. Et Pierre a dit, au nom de Christ, le Logos. Père, Fils, Saint-Esprit. Seigneur Jésus-Christ. Mais c'est tout aussi parfait que ça peut l'être. Voyez? Frère Sisme m'a dit, frère Sisme, le frère unitaire, il a dit, frère Branham, c'est vrai, mais il a dit, ça, c'est ceci. J'ai dit, dans ce cas, ceci, c'est ça. C'est vrai, voyez? J'ai dit, si ça, c'est ceci, ceci, c'est ça. Alors, pourquoi est-ce que vous vous disputez? J'ai dit, permettez-moi de vous adresser une recommandation, frère. Si jamais je baptise quelqu'un, voici ce que... J'ai dit, maintenant, voici le docteur Ness. Et quelqu'un parmi vous, les frères, a dit il y a un moment que vous connaissiez le docteur Ness. Bon, ici, je vais dire, frère X, ici, il a un... Je pense que vous avez un doctorat, pas vrai? Très bien. Alors, j'ai dit, si le docteur Ness, qui est assis ici, alors j'ai dit, si je voulais, maintenant que j'amène une personne à l'eau pour les baptiser, j'en tiens compte, tout comme lui l'a fait. J'ai dit que c'était des titres qui se rapportaient à son nom. J'ai dit, maintenant, les frères des assemblées utilisent des titres et les frères unitaires utilisent un nom. J'ai dit, maintenant, je vais vous prouver que vous avez tous les deux tort et que moi, j'ai raison. Vous savez comment il faut, quand des hommes sont tendus, comme ça, il faut avoir un peu de sens de l'humour de temps en temps pour détendre un peu l'atmosphère. Alors j'ai dit, je vais vous prouver que vous avez tous les deux tort et que moi, j'ai raison. J'ai dit, maintenant, disons que je veux montrer de la considération pour frère Ness. Et je dirais, ou frère X, ici, vous voyez. Je dirais, X, est-ce que ça ferait bien, ça? Non. Eh bien, et si je disais, docteur, hé, doc, et alors? Ça, ça fait irrespectueux, n'est-ce pas? Quand j'ai dit, c'est comme ça que vous faites, vous, les assemblées, vous voyez? Quand vous, les frères des assemblées, vous dites, au nom du Père et du Fils, du Saint-Esprit, tout ce que vous dites, c'est, au nom du pasteur, le docteur. Et j'ai dit, et puis, vous, les frères unitaires, quand vous baptisez, vous dites, Jésus. Ils n'utilisent pas, eux, les Jésus seuls, ils n'utilisent que le nom Jésus. Il y a beaucoup de Jésus. Mais c'est le Seigneur Jésus-Christ. Vous voyez, il y a beaucoup baptisés au nom de Jésus. Je ne suis certainement pas d'accord avec ça. Il n'y a pas de passage de l'Écriture. Prenez l'original. Voyez si ce n'est pas Seigneur Jésus-Christ. Certainement, il est le Seigneur Jésus-Christ. Il y a beaucoup de Jésus, certainement. Et le Christ, c'est le oint. J'ai dit, maintenant, si je devais dire la même chose à frère Ness, je dirais, est-ce que ça ferait bien que je dise, hé, hey, Ness? J'ai dit, c'est comme ça que vous, les unitaires, vous le diriez. Voyez? Est-ce que ça ne serait pas un manque de considération irrespectueux envers cet homme qui a étudié et qui a un doctorat? S'il a étudié d'arrache-pied pour l'avoir, on devrait lui donner ce titre. Et j'ai dit, et puis, si je disais, hé, hey, doc, j'ai dit, est-ce que ce ne serait pas trop direct comme façon de s'adresser d'un prédicateur à un autre? Ou j'ai dit, c'est tout à fait comme ça que vous le faites, seulement du côté par le titre. Mais j'ai dit, quand j'amène un homme à l'eau, je m'avance là, et je lui demande, et je parle, et je lui demande son nom, et qui il est, et sa foi. Ensuite, je prie, et je dis, « Maintenant, Père, comme tu nous as donné la commission d'aller par tout le monde et de faire de toutes les nations des disciples, vous, les frères, vous savez que c'est l'original, vous voyez, de faire de toutes les nations des disciples, les baptisant dans le nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, et leur enseignant à observer toutes les choses que tu as, toutes les choses que tu nous as enseignées. » Alors, j'ai dit, sur la confession de ta foi, sur ta confession de tes péchés et de ta foi dans le Fils de Dieu, je te baptise, mon frère bien-aimé, au nom du Seigneur Jésus-Christ. J'ai dit, voilà comment je baptise. Je reconnais à la fois ses titres, ce qu'il était, à la fois Père, Fils et Saint-Esprit. Et la raison pour laquelle Jésus a dit ça, c'était, maintenant, regardez, si ce n'est pas le cas, vous avez une contradiction dans votre Écriture. Vous avez une contradiction. Et qu'est-ce que vous allez faire quand, et si ce frère bouddhiste se levait et qu'il disait ça? Qu'en est-il de ceci? Qu'est-ce qu'ils ont dit quand ils m'ont raconté, là-bas, quand ce frère indien a lancé un défi à Maurice Reedhead et qu'il lui a dit? Il a dit, qu'en est-il de Marc 16? Il a dû faire machine arrière là-dessus. Vous n'avez pas besoin de faire machine arrière sur quoi que ce soit. C'est la parole de Dieu. Tenez-vous-en à elle. Priez simplement. Recevez la révélation. Elle est pareille d'un bout à l'autre. Vous voyez, maintenant tous les deux, ils disent la chose, pas des titres, pas de façon directe. J'ai dit, maintenant, je l'ai reconnu, il était le Père, pas un autre Dieu, il était le Fils, pas un autre Dieu, le même Dieu. Ce sont trois fonctions, Dieu dans la paternité, la dispensation, si vous voulez l'appeler comme ça, de la paternité, la filiation, et c'est le même Dieu en nous maintenant. Je serai avec vous, le « je », le pronom personnel. Je serai avec vous. Donc, vous voyez, ce sont trois fonctions, pas trois dieux. Maintenant, frère, si les disciples n'ont jamais utilisé ça, et ainsi de suite, je ne dis rien contre ça. C'est très bien. Mais je vous dis, si un homme venait ici, qu'il était baptisé au nom de la rose de Sharon, le lys de la vallée et l'étoile du matin, et qu'il croyait en Jésus-Christ comme son sauveur, je dirais, que Dieu vous bénisse, frère. Venez, allons-y. Voyez, c'est vrai. En effet, si votre cœur n'est pas droit, vous n'êtes pas dans le vrai, de toute façon. C'est exactement ça. Alors votre cœur doit être droit. Et j'ai dit, maintenant, regardez. Maintenant, si moi, j'allais saluer frère Ness ici, je dirais le révérend docteur Ness. Tout à fait. C'est un prédicateur. On doit le considérer comme un révérend. Il a étudié, et beaucoup étudié. Il a un doctorat. Alors on devrait l'appeler docteur. C'est son titre, vous voyez. Et pourtant, son nom est Ness. Mais je ne dirais pas, hé, hey, Ness, hé, hey, doc. Non, ce ne serait pas bien. Je dirais, le révérend docteur Ness. Vous voyez, c'est ce que je nomme. Vous voyez, ce qu'il est, à la fois Père, Fils et Saint-Esprit, le Seigneur Jésus-Christ. Voyez, et j'ai dit, si jamais je baptise quelqu'un dans vos églises à vous, c'est de cette manière-là que je les baptiserai. J'ai dit, est-ce que vous le recevriez, frère Ness? Il a dit, bien sûr, il a été baptisé au nom du Père, Fils et Saint-Esprit. J'ai dit, est-ce que vous le recevriez, frère Sisme? Il a dit, bien sûr, il est baptisé au nom de Jésus. J'ai dit, alors, qu'est-ce que vous avez, frère? Pourquoi ne voulez-vous pas accepter ça et renverser ces murs où ces pauvres êtres humains se trouvent? Les unitaires, ils veulent, en réalité, les membres de leurs églises, ils veulent adorer avec ceux des assemblées. Et les assemblées, les membres de leurs églises, ils veulent adorer avec les unitaires. Et les frères sont comme ça. Ils sont comme ça. Mais tant que le diable peut les faire se battre. Maintenant, vous voyez ce que je veux dire, frère? Mon objectif, c'est une seule chose. Jésus-Christ est l'union du corps de Jésus-Christ. C'est ça qui est mon but. Maintenant, je ne dis rien comme, et si vous n'êtes pas baptisé au nom de Jésus, vous allez en enfer. Ça, c'est absurde. Je vais vous raconter ce qui s'est passé l'autre jour. J'étais au Texas. Avant de partir, et les frères ici en sont témoins. L'église unitaire, 72 assemblées ont parrainé ma réunion. Et j'ai fait venir frère Petit, le frère des assemblées de Dieu, sur l'estrade ce soir-là. Maintenant, vous savez que c'est vrai. C'est un précieux frère. Frère Petit, s'il y en a parmi vous qui le connaissent, de Beaumont, au Texas, c'est l'un des meilleurs hommes que j'ai jamais rencontré. Son épouse est une catholique convertie, une femme vraiment sanctifiée. Il est un véritable homme de Dieu. Dites-moi s'il y a un homme meilleur que Roy Weed des Assemblées de Dieu. Nommez-moi n'importe lequel de ses frères. Regardez, ici, tous ces frères que je connais par ici. Le frère de l'église de Philadelphie, ici, et les hommes des assemblées de Dieu. Eh, est-ce qu'il y a de meilleures personnes? Dites-moi où. Dites-moi s'il y a un meilleur homme que Jack Moore. Dites-le-moi. Il est ce qu'on appelle, ils sont de ceux, il n'est pas un extrémiste. Vous trouvez des extrémistes dans les deux camps, et c'est ça que les gens montrent du doigt, et c'est ça que le diable montre du doigt. Mais ils sont tous des hommes de Dieu. Dieu leur a donné le Saint-Esprit. Si ce n'était la grâce de Dieu, nous serions tous finis. avec nos disputes et tout. C'est tout à fait vrai. Mais c'est la grâce de Dieu qui nous unit. Ce n'est pas étonnant qu'on puisse chanter « Béni soit le lien qui unit nos cœurs dans l'amour de Christ ». Voilà de quoi nous avons besoin, alors. Alors, vous savez quoi? Le surveillant général de l'Église m'a appelé et il a dit « Savez-vous ce que vous avez fait hier soir ?» Mon deuxième soir là-bas. J'ai dit « Quoi ?» J'ai dit « On a eu une merveilleuse réunion. » Il a dit « Vous avez fait venir à votre chair un homme qui était un pécheur. » J'ai dit « Je ne le savais pas. » Il a dit « Ce monsieur Petty. » Oh, j'ai dit « Un pécheur ?» Mais j'ai dit « C'est un prédicateur des assemblées de Dieu, frère. » Il a dit « Oui, mais c'est quand même un pécheur, parce qu'il n'a pas été baptisé comme il faut. » Et j'ai dit « Frère, je vous prie de me dire pourquoi. » J'ai dit « Il a le Saint-Esprit. » Il a dit « Frère Branham, qu'est-ce que Pierre a dit? Repentez-vous et soyez baptisés au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Donc, vos péchés ne peuvent pas être pardonnés tant que vous n'êtes pas baptisés au nom de Jésus. » J'ai dit « Est-ce là la formule, mon frère? » Il a dit « C'est la formule. » J'ai dit « Et Dieu a chamboulé son propre plan, alors, dans Actes 10, 49. » Car, comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur ceux qui écoutaient la parole. Vous voyez, ils n'avaient absolument jamais été baptisés. Alors, Dieu a donné le Saint-Esprit à des gens qui n'étaient même pas convertis. J'ai dit, « Mais où donc est-ce que vous vous tenez maintenant ?» Il a dit, « Vous savez ce que nous allons faire ?» Il a dit, « Nous traçons un petit rond, et nous le traçons pour que vous soyez en dehors de notre cercle. » Alors j'ai dit, « Je vais en tracer un autre, et le tracer pour que vous soyez de nouveau dedans, cette fois. » J'ai dit, vous ne pouvez pas tracer un cercle pour m'exclure, parce que je vous aime. Vous voyez, vous ne pouvez pas le faire, c'est tout. J'ai dit, il y a bien trop de vos frères là-bas, qui m'aiment et qui croient en moi. J'ai dit, vous, ils viendront quand même. J'ai dit, ils viendront. Et vous ne pouvez pas tracer un cercle pour m'exclure. Si vous en tracez un pour m'exclure, j'en tracerai un pour vous réinclure. J'ai dit, quand vous faites un cercle, Dieu par sa grâce me permettra d'en tracer un autre et de vous réinclure. Là, c'est vrai, en tracer un pour les réinclure. Eh, frère, oh, au nom de Christ, que je dise ceci. Je sais que je prends du temps ici, et c'est presque bientôt l'heure de terminer, je pense. Mais que je dise seulement ceci, vous voyez? Et j'ai dit à cet homme, j'ai dit, je serai d'accord avec vous, pour autant que vous prêchiez les Écritures, et que vous ayez de l'amour, et que vous croyez et que vous prêchiez, et que vous disiez que vous baptisez les gens, pas au nom de Jésus, Jésus seul. Non, monsieur, je ne serai assurément pas d'accord avec ça, parce que je connais plusieurs Jésus. J'en connais en Afrique, et à plusieurs endroits, des gens qui s'appellent Jésus. Mais si vous utilisez le terme de notre Seigneur Jésus-Christ, là, je serai d'accord avec vous. C'est très bien, je vous appuierai. Je pense qu'on doit mettre Père, Fils et Saint-Esprit en premier. Vous voyez, pour que ce soit clair. J'ai dit, je pense qu'on doit le faire. Mais il a dit, oh non, non, ça c'est de nouveau la Trinité. J'ai dit, ce n'est pas une Trinité, c'est un Dieu en trois fonctions. Ce n'est pas une Trinité, trois dieux. Nous n'avons pas trois dieux, certainement pas. Ça n'existe pas. Ça n'a pas été enseigné dans la Bible. Il n'y a qu'un seul Dieu. Écoute, ô Israël, je suis l'Éternel ton Dieu. Un seul Dieu, premier commandement, tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Certainement, il est un seul Dieu, pas trois. Ça, c'en est la version catholique. Elle a été transmise des catholiques aux luthériens et en continuant, et ainsi de suite. Et c'est une croyance généralement admise parmi les gens aujourd'hui que nous avons trois dieux. Et c'est là que jamais vous, cet évangile n'ira jamais aux juifs. Ce que j'ai prophétisé l'autre matin à un missionnaire juif là, vous n'arriverez jamais à faire accepter un dieu en trinité à un juif. Vous n'y arriverez jamais. Et d'ailleurs, il n'est pas. Il a plus de bon sens que ça. Vous voyez, il connaît mieux la Bible que ça. Mais il n'est jamais un Dieu train pour un juif. Si vous lui faites savoir que c'est le même Jéhovah, il l'acceptera tout de suite. C'est sûr. C'est ça, vous voyez. Et je crois que tout ceci, comme Joseph l'a dit, « Frère, ne soyez pas fâchés, parce que c'est Dieu qui a fait ceci. » Vous voyez? Alors, si la chose se passe comme ça, c'est pour que ça puisse attendre jusqu'à maintenant. C'est tout, parce que notre âge des nations est presque terminé. Maintenant, je crois ça, de tout notre cœur. Alors, voyez-vous, mes frères, j'essaie d'en venir à quelque chose. C'est que ce groupe de gens, d'hommes qui ont le baptême du Saint-Esprit, le groupe d'Aimé MacPherson, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle était d'abord unitaire, je crois. Ensuite, elle est sortie pour se joindre aux assemblées. Ensuite, elle s'est retirée et s'est organisée différemment. Ici, il n'y a pas longtemps, elle a introduit un petit groupe, un petit... J'étais assis dans la réunion d'O.L. Jaggers. Maintenant, nous connaissons tous O.L. Jaggers. Son père a contribué à fonder le Conseil général des Assemblées de Dieu. Maintenant, O.L. est un grand homme, c'est un grand prédicateur. Je lui ai dit, il n'y a pas longtemps, j'ai dit, frère Jaggers, si je pouvais prêcher comme vous l'avez fait, je ne ferais jamais un seul service de guérison. Mais il avait tout ce sang et ce vin et tout quand il a commencé là-bas au début. Excusez-moi si je vous blesse, frère, à ce sujet. C'est en ordre. Dieu peut faire venir du sang, venir du vin ou venir de l'huile, tout ce qu'il veut. Mais ce n'est pas ça qui remet les péchés. Non, monsieur, absolument pas. Le sang de Jésus-Christ ne perdra jamais sa puissance jusqu'à ce que toute l'Église de Dieu rachetée soit sauvée pour ne plus jamais pécher. J'ai dit, frère Jaggers, je l'ai emmené, je lui avais téléphoné. Et j'étais avec les hommes d'affaires chrétiens. J'ai dit, frère O.L. Il a dit, mais où êtes-vous donc? J'étais dans un petit motel bon marché là-bas. Et il a dit, voulez-vous me dire qu'ils vous ont logé là? J'ai dit, c'est mon désir. Quand je suis venu chez vous, j'ai dit, qu'est-ce que vous avez fait? Vous m'avez logé là-bas, à l'hôtel Statler. Il fallait que je reste dans un coin. Il m'avait fait asseoir à la table. Je ne savais pas quel couteau utiliser, ni rien. Et je n'avais pas... Je suis passé là. Je ne portais pas de veston. Il voulait me mettre dehors. Et j'ai dit, je ne sais pas comment me tenir. Il a dit, je vais vous emmener là-bas, s'ils sont trop pauvres pour le faire. J'ai dit, non, monsieur. J'ai dit, ce que je veux faire, c'est prendre un steak avec vous, si vous êtes prêt à le payer. Il a dit, d'accord. Alors, on est allé quelque part et on s'est assis. Et j'ai dit, frère Jaggers, j'admire vraiment votre... Et c'est un de mes très chers amis, un précieux frère. Et j'avais son petit tract, et où il parlait de cette femme qui venait d'arriver ici d'outre-mer, qui avait du sang dans ses mains et tout. Je voulais qu'il me dise le contraire, rien qu'une fois. Et là, je l'avais en plein sur son papier, vous savez. J'ai dit, j'ai remarqué que vous continuez de l'avant, que vous faites, que vous allez faire commencer un grand réveil. En effet, les hommes d'affaires m'avaient fait venir là, bien sûr. Il me semble que les gens devraient savoir. Si le Saint-Esprit peut révéler sur l'estrade, ne peut-il pas me dire ce qui se passe à des endroits, frère? Je peux vous le dire, mot pour mot, et le prouver par frère Carlson. Et ce frère ici, j'étais assis à la réunion hier, et j'ai dit à ses frères ce qui allait se passer ici ce matin. C'est vrai? Exactement. Vous voyez, en effet, le Saint-Esprit m'a réveillé, et il a dit, tiens-toi près de la fenêtre. J'ai regardé par la fenêtre. Il m'a montré exactement ceci. J'ai dit, maintenant, frère, je vous ai montré ceci. C'est tout à fait vrai. Voilà, voyez. Oh, il devrait le savoir. Ici, il n'y a pas longtemps, un homme s'est levé, ici, à Chautauqua. Et il a dit, frère Branham est un prophète. Je ne prétends pas être un prophète, voyez. Mais il a dit, frère Branham est un prophète, quand il est sous l'esprit de discernement. Mais il a dit, oh, sa doctrine, c'est du poison. Faites attention à ça. Je me suis dit, un homme instruit dire une chose pareille. Que signifie un prophète, un interprète divin de la parole? La parole du Seigneur est venue au prophète, vous voyez? Mais seulement ça, ce n'est pas non plus quelque chose à dire ici. Mais de toute façon, frère Jaggers. Et j'ai dit, il a dit, oh, j'ai vu où les questions de cette femme qui a du sang dans la main, là. Oh, il a dit, frère Branham, c'est la chose la plus phénoménale qu'on ait jamais vue. J'ai dit, frère Jaggers, je vous aime. D'abord, je veux que vous mettiez ma main dans la vôtre. Disons-nous que nous sommes frères. Il a dit, bien sûr, qu'est-ce qu'il y a? J'ai dit, vous êtes un des prédicateurs les plus puissants que je connaisse. Quel instrument pour Dieu vous êtes? Il a dit, merci frère Branham, vous êtes vraiment humble. J'ai dit, je ne dis pas ça pour être humble. Je dis ça parce que je crois que vous êtes le serviteur de Dieu. Mais j'ai dit, frère Jaggers, tant que vous allez trop loin, vous n'avez rien pour servir de contrepoids à ce dont vous parlez. Vous fondez, et c'est là le problème, chez beaucoup d'entre vous, des assemblées de Dieu et d'autres hommes, quant à ces services de guérison. Je ne vous blâme pas. Il y a tellement de choses qui passent pour, et Tommy ici est un bon frère, et nous savons combien il tient ferme. Mais il y a tellement de choses dans le pays aujourd'hui, sous le nom de guérison divine. Ce n'est pas étonnant que vous ne vouliez pas parrainer une réunion en ville. Ils viennent, et ils tirent l'argent des gens, et ils repartent. Et qu'est-ce qu'ils ont? Ils ne donnent absolument rien de plus aux gens que ce que vous leur apportez de l'estrade, de votre propre chair. Et vous avez raison, frère. Je vous le dis, vous avez raison. Mais c'est comme, je lisais l'histoire de Martin Luther. Il était dit que ce n'était pas un mystère, que Martin Luther ait pu protester contre l'Église catholique et s'en tirer. Vous avez lu son histoire. Mais que Martin Luther ait pu garder la tête au-dessus de tout le fanatisme qui a suivi son réveil, c'était ça le mystère. Et quand le phénomène est accompli, les incirconcis ont suivi, tout comme il en était en Égypte. Et ça a toujours provoqué des difficultés dans le pays. Nous savons ça, quand nous arrivons là-bas. Là, Corée s'est élevée et Dieu a dû détruire ça. Mes frères, je ne vous blâme pas. Frère Jaggers était assis là, a essayé de me dire que c'était le Saint-Esprit qui faisait ça. Et il disait, et puis j'avais dans son propre journal, j'ai dit, Frère Jaggers, maintenant, j'ai dit, je suis un élève de 7e année, et vous, vous êtes un docteur en théologie, et vous avez fait des études d'avocat. Vous avez été élevé dans une église propre, décente, les assemblées de Dieu. Votre père a contribué à fonder cette foi, et que vous vous sépariez, ça vous regarde. Mais j'ai dit, tout homme qui veut faire ça, ça le regarde. Je n'ai pas à m'opposer à ça. Mais quand on arrive au point où un instrument comme vous, qui pourriez gagner des milliers d'âmes pour Christ, vous bâtissez votre ministère sur une sensation. J'ai dit, frère Jaggers, quand vous construisez une colonne comme ça, si vous n'avez pas quelque chose pour servir de contrepoids, elle tombera après un moment. Et vous devez avoir des références dans l'Écriture pour ce dont vous parlez. Il a dit, il y a des références dans l'Écriture. J'ai dit, produisez-les. Il a dit, eh bien, frère Branham, il a dit, c'est le Saint-Esprit qui fait ça. J'ai dit, montrez-moi dans l'Écriture où elle dit que le Saint-Esprit n'ait jamais fait apparaître du sang sur quelqu'un, et ainsi de suite, comme ça. Montrez-moi donc ça. Couler de l'huile d'œuf. Vous avez dit que cette huile était pour la guérison divine. Et vous avez dit que le sang de cette femme serait le salut des nations. J'ai dit, si c'est le cas, alors qu'est-ce qui est arrivé au sang de Jésus-Christ? C'est ôté. Et tout ce qui est contre celui-ci, c'est anti. C'est contre lui. J'ai dit, ça devient une doctrine antichrist. Oh, il a dit, frère Branham, un jour vous apprendrez. J'ai dit, j'espère que je n'apprendrai jamais comme ça. Maintenant, frère, j'ai dit, je vous aime et vous êtes mon frère. Et j'ai dit, frère Jaggers, vous allez prendre une branche latérale au bout d'un moment et vous ne pourrez plus vous en sortir. Revenez à votre église et revenez et tenez-vous-en à l'évangile. Et j'ai dit, ne bâtissez pas ça sur des sensations. J'ai dit, maintenant, il baptise pour la vie éternelle. Vous savez, chaque fois que vous baptisez, vous redevenez une jeune femme ou un jeune homme. Maintenant, ça va. Vous n'allez pas jamais mourir. Alors là, il y est, au bout de la branche, maintenant. Et ces pilules vitaminées tirées de la mer morte. Vous voyez? Mais voilà ce que c'est, frère. Il a commencé avec ces petites sensations. Et vous, les hommes ici, qui avez ces églises, laissez quelque chose comme ça entrer dans la ville. Et vous savez, le diable est rusé. Et il se dépêche de s'emparer de ce genre de choses-là. Il en fait tout un plat. Et il fait que les gens soient tout retournés. Il provoque des confusions dans l'église et tout. Mais ce n'est pas ça. Maintenant, voici. Peu importe combien vous avez raison, voici une chose que nous manquons et qui nous échappe, mes frères. Maintenant, je termine en disant ceci. Peu importe combien j'ai raison et combien je suis conforme à l'Écriture et combien je connais sur la Bible de Dieu, si je n'ai pas l'Esprit de Dieu d'amour dans mon cœur pour toute la race humaine et tout, alors j'ai tort dès le départ. Maintenant, Paul a dit dans 1 Corinthiens 13, quand j'aurai la connaissance, vous voyez, la science de tous les mystères de Dieu, vous voyez, quand tout me prendre, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Et quand je parlerai les langues des hommes et des anges, c'est celles par lesquelles vous parlez à Dieu, et toujours celles qui ne peuvent pas être interprétées. Quand je parlerai les langues authentiques des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, l'amour, cela ne me sert de rien. Donc, si je connais tous les mystères de Dieu et que je peux les dévoiler et les faire tous s'aligner et que je n'ai pas l'amour, à quoi est-ce que ça sert? Et quand Jésus a dit, à ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, quand vous aurez, quand les assemblées auront de l'amour pour les unitaires et que les unitaires auront de l'amour pour les assemblées, quand vous aurez de l'amour les uns pour les autres, que vous ayez raison ou tort. Et tant que l'objectif est faux, que le motif est faux plutôt, alors vous avez tort dès le départ, n'est-ce pas vrai? Vous voyez, quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je ne suis encore rien. C'est que Dieu est amour. Ça, nous le savons. Et je crois au parler en langue. Or, quelqu'un a dit, « Frère Branham ne croit pas au signe initial. » J'aimerais éclaircir ça avec vous maintenant. Voyez, j'aimerais vous dire, je crois que quand un homme reçoit Christ, il reçoit une portion du Saint-Esprit. En effet, Jésus a dit dans Matthieu au chapitre 12, du chapitre 5 et 20, le 24e verset, il a dit, non, je crois que c'est Jean 5, 24. Il a dit, celui qui écoute mes paroles et qui croit à celui qui m'a envoyé, à la vie éternelle. Or, il n'y a qu'une seule forme de vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Maintenant, je crois qu'aucun homme ne peut s'appeler lui-même. C'est Dieu qui doit l'appeler. Et si Dieu l'a vraiment appelé, il y a beaucoup de gens, nous le savons, frère, qui sont sous le coup de l'émotion et pensent que Dieu les a appelés. Mais leur vie ne tarde pas à découvrir, vous allez découvrir. Mais si Dieu vous a appelé, eh bien, vous allez y être et vous allez y rester, vous voyez, savez. Et puis, si maintenant, ce n'est pas la doctrine baptiste, vous savez ça, vous voyez, mais c'est que je ne crois pas dans les poignées de main pour avoir la sécurité éternelle et toutes ces choses-là. Je ne crois pas à ça, pas du tout. Si eux veulent croire ça, eh bien, c'est très bien. Je dis quand même que ce sont mes frères. Ce matin, si j'allais demander un morceau de tarte, et c'est presque l'heure du dîner, il se peut que je l'aime aux cerises et que vous la preniez aux pommes, mais on mange tous les deux de la tarte, voyez? Donc, ça ne change rien tant qu'on mange de la tarte. C'est ce que nous croyons. Si vous voulez être unitaire, soyez unitaire. Si vous voulez être assemblé de Dieu, soyez assemblé de Dieu. Si vous voulez être ce que vous êtes, baptiste, presbytérien, soyez-le en chrétien. Voyez? Et sondez ça par vous-même. Mais ne faites pas d'histoire entre vous. En effet, ces petites choses, elles s'emboîtent toutes les unes dans les autres. C'est vrai. Elles s'emboîtent toutes les unes dans les autres et aboutissent à ce seul point. Et peu importe ce que nous faisons, combien de miracles nous pouvons accomplir, combien de montagnes nous pouvons déplacer, ou quoi que ce soit, tant que nous n'en sommes pas arrivés au point où nous aimons, pas du faux semblant, mais que nous nous aimons les uns les autres. Quand nous aimons chaque frère, peu importe à quelle église il appartient, nous l'aimons. Pas seulement faire semblant, parce que nous savons que c'est une notion religieuse, c'est « nous devons le faire », mais parce que nous le faisons, nous nous aimons les uns les autres. Alors, avec longanimité, nous supportons les uns les autres. Et je crois, dans Colossiens 3, autour du verset 9, quelque part par là, je pourrais me tromper de passage de l'Écriture, mais il disait ceci. Une fois qu'on est devenu chrétien, on ne doit pas se jalouser. Voyez, nous ne pouvons pas avoir la foi quand nous essayons de rendre le respect et l'honneur les uns aux autres. Vous voyez, nous ne pouvons pas faire ça. Nous ne pouvons pas avoir la foi. Nous devons honorer Dieu, vous voyez, l'honorer lui. Croire en mes frères, bien sûr, c'est de l'amour, mais le respect et la dignité reviennent à Dieu. Pour ce qui est d'avoir une foi, une confiance les uns dans les autres, et ne mentez pas les uns aux autres, voyez, ne mentez pas les uns aux autres. Si je vous dis ce matin, je vous aime, il faut que je le pense vraiment, sinon je suis un hypocrite, c'est exact. Maintenant, frère, dans le même sens, maintenant, frère Tommy, j'espère que je n'ai pas trop retenu là. Frère Tommy a quelque chose à dire dans une seconde là, mais je peux dire ceci, que je suis venu au milieu de vous. Je crois ceci. Je crois que Dieu notre Père a couvert de son ombre une vierge appelée Marie et qu'il a créé en elle une cellule de sang qui a produit Jésus-Christ, qui était le Fils de Dieu, le tabernacle dans lequel Dieu s'est voilé en chair, s'est manifesté parmi nous. Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Je crois que cette cellule de sang a été brisée au calvaire pour la rémission de nos péchés. Et l'Esprit est sorti de lui et est revenu sur l'Église parce que le Christ, le Saint-Esprit, le Christ, le Logos, était en nous maintenant. Le Saint-Esprit, par le baptême, ce qui fait de nous, Christ s'est séparé en donnant sa vie à chacun de nous pour que nous, en tant que groupe de gens, nous puissions être l'Église de Dieu. Et il n'y a pas longtemps, j'ai déjà fait de l'équitation. Vous savez ça. Mon père était un cavalier. Il en était un excellent. J'ai déjà fait de l'équitation. On conduisait dans la vallée d'Arapaho, où je veux dire la rivière Troublesome. de l'autre côté des pâturages d'Arapaho. C'est l'association Hereford qui fait paître dans cette vallée. Et dans cette vallée, les propriétaires de ranch, ils ont tant d'herbes qu'ils peuvent faire pousser. Et quand un ranch produit jusqu'à une tonne de foin, ça vous permet de mettre une vache sur le pâturage, là-bas, juste en dessous du parc Estes, là. Et on peut mettre une vache sur ces pas, ces terres où j'aime beaucoup chasser, là-haut. Et j'ai été cow-boy là-bas pendant un an. J'y vais encore au printemps et en automne, quand je suis libre et que je peux et je fais les rassemblements, rien que pour être là-haut, parce que j'aime faire du cheval. Et tout le long des rangs de cette vallée, il y a un groupe de cow-boys qui ont un droit d'entrer là et pour faire paître leur bétail. Et au printemps, bien des fois, je les ai aidés à rassembler leurs bêtes et à les conduire là-bas. Et il y a une clôture à bétail pour les empêcher de revenir sur les terrains privés en traversant le pâturage. Et le cow-boy se tient là et il compte ses bêtes alors qu'il entre. Alors qu'elles entrent. Et bien des jours, je suis resté assis là, heure après heure, à regarder entrer le troupeau de M. Grimm. Il avait les Diamond Bars. Les nôtres, c'était le Turkey Track. Et il y avait le Tripod, juste en dessous de nous. Et ceux de Jeffries, et ainsi de suite. Et puis, quand je mettais ma jambe, comme beaucoup de vous le savez, par-dessus le pommeau de la selle, et je restais assis là à observer le cow-boy qui était là, en train de compter ses bêtes. J'ai remarqué une chose, il ne faisait pas très attention à la marque qu'elle portait. Mais il y a une chose qu'il cherchait vraiment, c'était l'étiquette de sang. Il fallait que ce soit une Hereford de race, sinon elle ne pouvait pas traverser cette clôture. Mais la marque ne changeait pas grand-chose. Et je pense que c'est comme ça que ce sera au jugement. Il ne va pas regarder notre marque, mais il cherchera l'étiquette de sang. J'ai fait mes erreurs, frère. Et j'ai fait tellement de choses qui sont fausses. Si jamais, le long du chemin, j'ai apporté ou vous avez entendu quelque chose que j'ai pu mentionner ou dire qui soit offensant d'une quelconque manière, ou si j'ai dit quelque chose ce matin qui soit offensant, je vous demande, en tant que frère ou sœur chrétien, de me pardonner. Ce n'est pas mon intention de le faire. Je n'ai fait que vous ouvrir mon cœur pour que nous sachions. S'il y a des baptêmes à faire, vous les frères, faites-les vous-même. Vous voyez, ça c'est, je ne le fais pas. Si je le faisais, c'est comme ça que je baptiserais la personne de cette façon-là. Et vous pourrez tous les deux l'accepter, vous voyez. Alors, vous pourrez prendre la personne. Ils sont baptisés au nom du Père, Fils et Saint-Esprit. Et ils sont baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ aussi. Alors, si jamais j'en baptise une, mais je ne l'ai pas encore fait, je ne baptise que dans ma propre église. Et ça, c'est seulement les gens de là-bas. Et c'est de cette façon-là que les gens de mon église sont baptisés. Et si vous voulez regarder en arrière, c'est l'ancien rituel missionnaire, l'ancien rituel baptiste missionnaire. Et maintenant, si, voilà pour ça. Je crois à la guérison divine. Je crois au baptême du Saint-Esprit. Je crois que le Saint-Esprit parle en langue. Je crois à tous les dons que Dieu a donnés à son église. Je suis pour à 100%. Mais je crois beaucoup de ces guérisons sensationnelles, là, dont on entend parler aujourd'hui. Je ne suis pas pour. J'aimerais juste faire une remarque ici. Il y a quelque temps, il y avait un frère, et ce n'est pas mon précieux frère Tommy X, que je considère comme un véritable serviteur de Christ. Il y avait un autre homme dans un autre pays, et dans ce pays-là, il n'arrêtait pas, c'était tout le temps, le guérisseur sensationnel de Dieu. Guérisseur sensationnel. Vous savez, comme ça. Et j'ai reçu une lettre, après que cet homme, de l'église luthérienne. Et mon secrétaire ici sait que nous l'avons dans nos dossiers. Je ne citerai pas le nom de cet homme, parce que ce n'est pas chrétien de faire ça, même si je ne suis pas d'accord avec les idées de cet homme. Mais c'est parfaitement en ordre. Je l'aime. Il est mon frère. Mais c'en est arrivé un point où il leur faut un genre de sensation, ou d'excitation, ou quelque chose du genre, vous voyez. Et ça, ça ne donne rien, vous voyez, frère. L'exercice corporel accomplit très peu de choses. Et donc, ce prédicateur luthérien a répondu à ce prédicateur par une lettre. Et il disait, vous, les évangélistes américains qui venez ici, il disait, avec toute votre guérison sensationnelle pour tout le monde. Et là, j'ai l'air de me jeter des fleurs, mais Dieu sait que ce n'est pas mon intention. Mais il a dit, quand la petite Deborah Statcliffe est morte, ce bébé, et que la mère s'était tenue là, ce jour-là, en India, en Californie, là où il y avait eu ce bébé qui était mort et qui était froid. Et d'avoir vu déposer ce bébé dans les bras de frère Branham. Et lui était là, en train de prier pour lui. Et le bébé s'est mis à crier et à gigoter. et il le lui a remis. Il connaissait aussi le cas du Mexique, et on peut se fier sur une attestation des hommes d'affaires du plein évangile. Il faut avoir quelque chose d'attesté par un médecin. Quand ce petit bébé mexicain était mort ce matin-là, à 9h, et là, il était 11h du soir, un médecin a rédigé son attestation. Frère Espinoza, que beaucoup d'entre vous, les frères des Assemblées de Dieu, connaissaient, c'est lui qui est allé chercher cette attestation du médecin comme quoi il était mort. Et j'ai vu une vision au-dessus de la foule, quand 20 000 catholiques sont venus à Christ dans la ville de Mexico. J'ai dit, ne prenez pas ça, je ne sais pas, ce bébé, je viens juste de voir une vision ici. Et Billy était là, en train d'essayer, avec 30 ou 40 huissiers, il n'arrivait pas à empêcher cette petite femme d'entrer dans la ligne de prière avec ce bébé. Elle leur passait entre les jambes et tout. Alors, j'ai fini par envoyer Jack Moore. J'ai dit, va prier pour lui. J'ai regardé là, et j'ai vu un petit bébé mexicain qui souriait. J'ai dit, attendez une minute, amenez-le ici, voyez. Et quand j'ai mis mes mains sur cette couverture, il pleuvait à verse toute la journée. Ils étaient restés là depuis tôt ce matin-là. Et là, il était d'environ 11h du soir. Et j'ai mis mes mains sur le petit bébé. Il s'est mis à gigoter et à gazouiller. Et eux se sont mis à crier. Alors ensuite, ils l'ont redescendu et sont allés chercher l'attestation. Ils sont allés voir le médecin. Et le médecin a dit, j'ai déclaré ce bébé mort ce matin à 9h. Il est mort d'une pneumonie. Voyez. Et donc, ces choses sont vraies, elles sont attestées, il faut qu'elles le soient. Nous devrions toujours être honnêtes et véridiques en tout. N'omettez pas que ce soit simplement ce que c'est, que ce Dieu n'a pas besoin d'aide pour quoi que ce soit. Vous voyez, il est Dieu. Donc, voici ce qu'il a dit là. Mais quand cette mère a appelé Frère Branham en Amérique, elle lui disait en pleurant au téléphone, « Venez ressusciter mon petit bébé. » Et le gouvernement des États-Unis, son mari, est aumônier dans l'armée. Et vous connaissez tous Julius, beaucoup d'entre vous. Il a écrit mon livre « Un prophète visite l'Afrique ». Et cette pauvre mère norvégienne criait aussi fort qu'elle pouvait en disant, « Frère Branham, j'étais là quand ce bébé a repris vie. » Elle a dit, « Nous croyons que vous êtes un serviteur de Christ. » Elle a dit, « Venez, imposez les mains à mon bébé, et il vivra. » Il venait de mourir un instant auparavant d'une pneumonie. Il avait été malade pendant environ 4 heures ou 5. Et ces hommes s'étaient tenus là-bas, en hurlant et en criant et en sautant, en disant, « Dieu va le ressusciter, Dieu va le ressusciter. » Et il était dit, pour ça, American Air ou pas American Airlines, l'armée des États-Unis allait m'amener là-bas en avion à réaction et me ramener ici en un jour. Voyez. Et j'ai dit, avant de venir, je veux trouver la volonté du Seigneur. Alors j'ai prié pendant 2 jours. Et ce médecin a eu la gentillesse de garder là le bébé. Alors, un matin, je me suis levé et je m'en allais vers la cuisine. J'ai regardé, il y avait là une lumière, à peu près de la grosseur de cette lumière-là, qui tournoyait et qui a dit, ne touche pas à ça, ne réprime pas ça. C'est la main du Seigneur. Je suis vite retourné téléphoner à destination de ce pays et j'ai appelé et j'ai dit, je ne peux pas venir. Et ce prédicateur luthérien disait, pourquoi n'attendez-vous pas d'avoir une décision nette de la part de Dieu, comme Frère Branham l'a fait, pour alors savoir de quoi vous parlez? Maintenant, c'est ça, frère. Si seulement nous ne tirions pas de conclusions trop hâtives et que nous attendions que nous soyons éclairés, que nous ayons une décision claire et nette de la part de Dieu. Et tout ça, là, toutes ces guérisons de pécheurs qui ne savent rien de Dieu. Je crois que la guérison divine est basée sur un principe selon lequel il vous faut venir à Dieu d'abord et lui donner votre cœur et laver vos vies dans le sang de Jésus-Christ. Et à ce moment-là, Dieu se mettra à l'œuvre pour vous et vous guérira. C'est comme ce que ce frère mentionnait au sujet de la petite femme pour laquelle il avait prié là-bas, une sainte de Dieu, vous voyez. Dans ma vie, j'ai fait beaucoup d'erreurs. J'ai fait beaucoup de choses qui sont fausses. Je vais probablement, si je vis encore longtemps, je vais en faire beaucoup d'autres. Peut-être que certaines d'entre elles seront des pierres d'achoppement sur votre chemin. J'espère que vous me pardonnerez. Je lisais au sujet d'Abraham, des défaites qu'il a eues. Comment il... Oh, les choses qu'il a faites. Il a douté de Dieu et il a menti au sujet de sa femme et tout. Mais quand son commentaire divin a été écrit dans Romains 4, il n'a pas du tout été question de ses erreurs. Mais il a été dit, Abraham ne douta point au sujet de l'incrédulité par Dieu, mais il fut fortifié. Toutes ses erreurs ont toutes été oubliées quand le commentaire divin sur sa vie a été écrit. Il n'a même pas été fait mention de ses défaites. Il n'a pas été fait mention de ses erreurs. Et frère, j'espère que quand mon commentaire sera lu ce jour-là, qu'il effacera les miennes aussi et qu'il n'y pensera pas. J'espère que vous le ferez aussi. Que Dieu vous bénisse.
There's ins and outs and overs in the life of every man. I'm not going to speak. I have a message. I believe that everything has been said and should have been said. My heart is stirred this morning. I believe that for many of us, some things have been stirred up. Make us better men and women of God. Babe Ruth was known as the home run king. But did you know that Babe Ruth was also the strikeout king? He struck out more times than he ever made home runs. He struck out 1,307 times. He only made 860 home runs. But every time Babe Ruth struck out, he went back to the dugout and the old umpire hollered, "You're out!" Went back to the burnout of the family. He took the back of the corner of the family. And always said, "I'll be your daughter." There's nothing wrong in striking out, but remember to pick up the back of the family. Say it again, please.
Christ in me.
That we can say from the very deep of our heart and the deep of our soul, Christ in me, the hope of glory. Oh, Jesus, put your loving arms around every man and every woman, and may our vision and our sight be raised higher than the things of this world, that we may see Christ and others may see Christ in us. Lay your hand upon each one of these of thy servants.
Grant it, Lord.
And may as we go out of this place this morning, that we will determine to see nothing save Christ only.
Amen.
That we have nothing within each other. That we know the job is, there's such a big job to be done, Jesus. There's such a great harvest to be reaped.
Yes,
oh, Lord. Help us, Lord,
yes.
That we'll join hands together.
Grant it, Lord.
And sweep across the
highway. Yes, Lord.
When lost and dying.
Yes,
I want you to lift your hand and just praise the name of our Lord Jesus Christ.
I love you.
400,000 people in one place, time after time, we have seen people. And I remember the first afternoon we had more than 400,000 people descending back in front. And I had that time. And I was told that more than 300,000. We asked the people in the crowd, just to be quiet for the people outside. And suddenly, as I was saying that, something inside of my soul. I've never known before in my life the revelation of Christ in me until I heard the echo. A 300,000 people outside were coming. Outside this morning, with a great, the majestic army of the King of Heaven.
Yes.
Who do you love? Christ in me, the hope of glory. Close your eyes, raise your hand, and sing it again, everyone.
Yes.
Different men and women do the same and say, I love the Lord Jesus.
Amen.
That's why put you on.
If I could see this happen.
Si je pouvais voir ceci se produire partout dans le monde, je dirais, Seigneur, laisse ton serviteur s'en aller en paix.